Bonjour tout le monde! Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour, bonsoir. Bonjour la Kiffrance. Est-ce que ça va? Salut Sliva, merci pour ton resub, merci beaucoup. Et merci Zoé Truc aussi pour ton resub. Ça va en ce lundi? C'est la rentrée donc non. Ah, c'est la rentrée, vous avez fait votre rentrée? Qui c'est qui a fait sa rentrée? Vous avez fait votre rentrée où? Merci Flux pour ton resub. Les étudiants, là, vous étudiez quoi? Comment ça se passe la rentrée? Rentrée de la fête de l'UMA. D'accord. Oui. Ça marche aussi. Ça marche aussi, techniquement. Paris 1, économie, ok, GG. Pôle emploi, ok, GG. On m'a refusé un poste, donc non. Rentrée au chômage, mon ref, courage. Pharma, il me reste 3 jours avant d'être diplômé, donc ça va. Ouais, félicitations, c'est cool. J'étudie le chômage, bonjour. Rentrée comme prof de philo, première année. Courage à toi, Cipazur. Bravo et courage à toi. Master sciences sociales et politiques, fac d'odontologie, on connaît pas. Alternance de rentrée, double licence psychophilo. Je suis rentré chez moi, d'accord, très bien. Nouveau prof, bravo à toi. Doctorat en chômage, dentaire, les cancers, maths, master journalisme à Montpellier, chômage pour un vrai viewer, ancien étude en maçonnerie 3e année. Bon courage. Licence 1, histoire philo. Je suis rentré en résistance. Médecine. Gestion de projet culturel. Rentrée en chimiothérapie. Courage à toi. Entretien d'embauche bientôt. Bon, bah, ok. Doctorat en célibat. Bon, bah, courage à vous, hein, tous ceux qui ont fait leur rentrée. Bravo. Je croise les doigts pour vous. Et bienvenue à tous les nouveaux profs dans la profession. Vous allez voir, c'est cool la plupart du temps. Merci à toi, Lux, pour ton message. Et effectivement, bravo et bienvenue pour tous les nouveaux enseignants. Comment ça va? Moi, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Dur de récup de l'UMA? Non, en vrai, ça va. J'ai dormi ce week-end. Tranquille. Samedi, j'ai fait un stream et je me suis reposé. Dimanche aussi. Et aujourd'hui, j'ai enchaîné les réunions, putain. Voilà, je baille, je suis désolé, putain. J'ai refait 7 ou 8 réunions. C'est la reprise, hein? C'est le travail, hein? Ça avance bien la cagnotte. Mais ouais, ça avance bien. Regardez, on est bientôt à 17 000 euros par mois. L'objectif, je vous rappelle que c'est 30 000 euros par mois. Si on arrive à avoir 30 000 euros par mois, on réussit à faire backseat. Chaque semaine, à condition qu'on réussisse à trouver les partenaires, mais ça va aller de mieux en mieux. Mais ouais, c'est cool. 7-8 réunions aujourd'hui. Ouais, des calls, des réunions, des calages, des recoups de téléphone derrière pour revalider, etc. Des trucs. Pourquoi il y a le logo de Twitter sur ton t-shirt? Oh, le troll! C'est le t-shirt de la fête de l'humour. Je vous ai dit que j'avais dévalisé la boutique, hein. Bah, j'ai dévalisé la boutique. Est-ce que tu peux redemander un financement public cette année? Au CNC, ouais, on va redemander un financement public. C'est joli, c'est un joli dessin de pigeon. D'enfoiré. Allez, bâtard! Bon, ouais, ça fait plaisir de vous retrouver, hein, après ce week-end de folie. Comment va le Potichat? Le Potichat va bien. Alors, vous savez, alors pour ceux qui ont suivi les aventures du Potichat, je vous rappelle que le Potichat n'a plus accès à la cuisine. Le Potichat n'a plus accès à la cuisine. Pour l'aider un petit peu à se sociabiliser avec moi, elle n'a plus accès à la cuisine. Donc maintenant, si elle veut se cacher, c'est soit dans ma chambre, soit ici, dans cette pièce. L'intérêt étant que bah, c'est les deux autres seules pièces de l'appartement dans laquelle moi je vis. Donc elle me voit passer, elle m'entend, etc. Elle se nourrit quand même, oui, elle se nourrit bien, elle vit bien, elle s'hydrate, elle se nourrit, elle joue, mais uniquement quand je dors ou quand je suis pas là. Et donc du coup, elle a passé un petit peu de temps la semaine dernière dans ma chambre, sous mon lit, et je suis content parce que les deux autres cachettes dans lesquelles maintenant elle passe du temps, c'est soit sous un meuble à côté de mon lit. Et pourquoi je suis content? C'est parce que quand elle est cachée là, elle me voit. Quand je suis allongé tranquille sur mon lit avec mon ordi sur les genoux pour regarder des conneries sur Internet, bah elle a un contact visuel avec moi en permanence. Donc elle me voit, ça c'est cool. Et la deuxième cachette dans laquelle elle se met maintenant, c'est juste là, cachée entre sa litière et le mur sous un radiateur. Donc elle a son petit coin à l'ombre, etc., comme elle aime bien. Mais l'autre avantage, c'est que là aussi, elle a un contact direct visuel avec moi quand je suis assis à mon bureau. C'est-à-dire que là, je la vois. Là, je vois le petit chat. Et je vois son regard, elle me regarde, elle m'entend parler là. Donc je pense que c'est cool aussi parce que ça va la sociabiliser aussi, elle va s'habituer à ma présence cette fois-ci, non plus dans une autre pièce à pas m'entendre, à pas me voir. Là, elle me voit, elle m'entend quand je suis là. Donc voilà, donc je la vois. Elle est là, elle est cachée. Je suis content, j'ai un contact avec le petit chat, un contact visuel. Quand tu l'approches, elle fait quoi? Alors, je peux pas l'approcher. Clairement, si j'essaye de l'approcher, elle va se barrer. Et si elle peut pas se barrer, donc si elle est coincée dans un coin et que du coup je me mets à quatre pattes et que je tends ma main vers elle et qu'elle peut aller nulle part, là, elle aime pas du tout. Là, elle grogne, elle veut pas que je la touche, elle a peur, elle veut pas. Donc j'essaye un petit peu. Parfois, je m'allonge par terre, je tends la main, je mets ma main pas très loin d'elle. Mais clairement, c'est pas un moment qu'elle kiffe, hein. Tu lui files pas une friandise sur le moment? Bah, je vais essayer de trouver une friandise qu'elle aime bien, mais pour l'instant, les friandises que j'ai essayées, elle aime pas. Donc je vais essayer de trouver effectivement une friandise qu'elle aime bien pour aider la sociabilisation, mais elle a eu des problèmes. Non, elle a pas eu particulièrement de problèmes, c'est juste qu'elle a jamais eu de contact avec les humains. C'est un chat qui a été semi-sauvage pendant toute sa vie, et je suis son premier humain. Donc, les humains, c'est pas son truc. En fait, techniquement, elle a jamais vraiment eu de caresses, elle a jamais eu de contact avec des humains. C'est pas, elle sait pas faire, elle connaît pas, elle en a peur, etc. Voilà. Le ton en boîte, c'est radical 9 fois sur 10, c'est pas cher contrairement aux conneries à chat. Ouais, alors du coup, je lui donne, elle a de la pâtée, hein, tous les jours, je lui donne une pâtée. Je lui mets la pâtée dans ma chambre pour qu'elle puisse manger pas loin de moi, pareil pour qu'elle s'habitue. Mais si je lui pose la pâtée devant elle, elle va pas venir la manger. Si je suis à côté de la pâtée, elle va pas venir. Hein. Elle m'a dit, t'inquiète, j'ai vu la pâtée, j'attends juste que tu te casses, que tu éteignes ta lumière, que tu ronfles, et là je sortirai. En vrai, non, elle attend de moins en moins que je ronfle. Merci Ambilo pour ton abonnement, merci beaucoup. Attention au thon en boîte car trop salé. D'accord. Il faut la laisser tranquille, lui montrer que si elle veut, elle peut avoir des câlins. Exactement, c'est ce que je fais. Sauf que comme elle sait pas ce que c'est qu'un câlin, je pense que spontanément, elle va pas venir en chercher. Donc pour l'instant, on va continuer sur cette sociabilisation. Voilà, elle me voit, je suis là, elle a sa litière, elle a accès à tout. Elle a de l'eau en permanence, elle a des croquettes à volonté, elle a de la pâtée une fois par jour, donc elle va bien. Donc je lui fous la paix. Mais du coup, ouais, ça fait quoi? Ça fait 5 mois qu'elle est chez moi? Et je ne l'ai jamais touché physiquement, il n'y a jamais eu de contact physique. Un deuxième chat qui lui est sociable et câlin, ça ne l'aiderait pas. Bah, il y a un débat là-dessus, j'en ai parlé à plusieurs personnes, il y en a qui pensent qu'effectivement ça peut aider par mimétisme. Il y en a d'autres qui disent ça peut aussi ne servir à rien du tout, voire même elle peut être hostile à un deuxième chat. Auquel cas, ce serait pas ouf. Donc, bon. Puis bon, il y a aussi la question de savoir est-ce que je veux avoir deux chats chez moi? Pas sûr. Et puis elle est contagieuse. Et par ailleurs, elle est effectivement contagieuse, elle est positive au FIV, donc une maladie sexuellement transmissible. Donc elle peut tout à fait cohabiter avec des chats qui sont également positifs au FIV. Elle peut aussi, on m'a dit qu'elle pouvait en fait cohabiter avec des chats qui sont négatifs. La seule, la, c'est soit par rapport sexuel, soit par griffure profonde. Il faut qu'il y ait un contact sanguin. C'est comme le sida pour les hommes, c'est la même maladie, c'est le même virus, hein. C'est le VIH, V pour, enfin, H pour humain, F pour félin. C'est le même virus. Donc il faudrait qu'elle se batte avec un chat et qu'elle le fasse saigner et qu'il y ait un contact sanguin. Donc il paraît que c'est très rare. Bon. Et l'autre truc, elle est par ailleurs porteuse d'un coryza. Le coryza étant une maladie qui elle aussi est contagieuse. Donc là, pareil, il faut que ce soit un chat lui aussi porteur du coryza. Voilà. Pauvre petit chat. Ouais, pauvre petit chat. Est-ce que tu as essayé les plumeaux et les jeux? Oui, j'ai essayé un petit peu. Elle est pas réceptive aux plumeaux et aux jeux. Il faut peut-être que j'en achète un nouveau. J'ai essayé le laser. Elle adore le laser. Mais faut y aller à modo. Faut y aller mollo. Faut y aller mollo avec le laser parce que les chats, ça les frustre. Le laser, ils peuvent pas l'attraper. Donc le jeu est un peu frustrant pour eux au bout d'un moment. Donc faut pas jouer toute la journée avec le laser. Faut y aller mollo. Merci Ponk pour ton resub, merci. Le coryza c'est très classique. Oui, le coryza c'est une maladie très classique des chats. Hein. C'est pas coryza et FIV c'est souvent un combo. Oui, il paraît qu'en plus ça va souvent ensemble. T'as l'air de trop bien t'occuper d'elle. Bah, c'est pas très difficile. On est sur un chat qui cherche pas les câlins et qui a peur de moi, donc en vrai m'occuper d'elle ça. Je lui ai mis un environnement le plus cool possible pour elle, mais je ne peux pas trop m'occuper d'elle parce qu'elle veut pas, elle s'approche pas de moi, elle a peur de moi. Donc voilà. Merci Fourchette Fatale pour ton Prime. Merci beaucoup. Et puis sinon, elle a des petits jouets, bah vous les voyez là derrière, elle a des petits jouets qui traînent partout dans la pièce. Et la nuit, elle joue avec. Hein. Regardez, elle a des petites souris. Souris comme ça avec une petite plume et elle joue avec. Je l'entends la nuit les envoyer balader à l'autre bout de la pièce. Elle s'en fout. Le test des herbes, ça donne quoi? Et bah, il y a deux essences d'herbe à chat qu'elle aime bien. Et une dont elle se fout complètement, donc c'est bon, le test est validé. Le protocole scientifique a porté ses fruits. On a identifié les herbes à chat qu'elle aime bien, donc je vais pouvoir en racheter et m'en servir un peu. L'autre truc, moi je vous cache pas que j'ai l'espoir qu'un jour elle aille se mettre dans la petite cachette que je lui ai aménagée. Regardez, j'ai acheté ça. C'est une cachette pour chat spéciale pour les meubles Kallax de chez Ikea. C'est un meuble Kallax. Et donc c'est un cube de. C'est un truc en tissu. Je lui ai mis des pulls qu'elle aime bien, dans lesquels elle avait déjà l'habitude de se mettre et tout. Et elle y est déjà allée. Quand je suis pas là, ça lui arrive d'y aller. Donc je suis content, ça veut dire qu'elle commence à apprivoiser cette cachette. Et donc un jour peut-être, elle viendra en stream, vous la verrez. Se mettre dans la cachette derrière moi. Et comme ça, quand je me pousserai, vous pourrez voir ses jolis petits yeux derrière là-bas. Un jour, je vous promets rien, alors là, je ne maîtrise pas. Hein. J'en ai une, un de mes chats dort souvent dedans, ils aiment bien ce petit espace renfermé. Ouais, non, mais je pense que c'est idéal pour un petit chat, donc là. Ça reprend quand les mardis questions au Parlement, c'est mon jour favori. Ça reprend la dernière semaine de septembre. Et du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir vous streamer la première séance de questions au gouvernement de l'année parce que le même jour, j'ai une émission en partenariat avec la mairie de Paris, Démo Stream, que je vous ai annoncé sur Twitter, mais dont je vous ai pas encore parlé. En partenariat avec la ville de Paris, on va organiser une émission en live, en plateau. Ce sera en direct de l'Académie du Climat à Paris. L'Académie du Climat, c'est un truc qui a été créé par la ville de Paris, dans lequel il y a plein d'activités et d'animations autour de la question climatique. Et ça sert notamment à faire des réunions, des collectifs, des machins, des tout ce que tu veux, des salons, des trucs. Et donc à l'Académie du Climat, on va faire un plateau spécial, c'est pas un backseat, hein, c'est un plateau spécial d'une émission qu'on a appelée Demo Stream, au cours de laquelle on va se poser la question de l'avenir de la démocratie, et notamment de la question du numérique et des fake news, et de leur effet sur la démocratie. Donc voilà, on aura des élus, on aura des personnes pour intervenir, des spécialistes, etc. Et donc voilà, et donc ce sera mardi 26. Ce sera mardi 26, de 18h à 20h. Et donc, alors, soit je le fais depuis là-bas, les QAG, ce qui est possible. Soit je le fais pas parce qu'il faut que je prépare mon émission, etc. Donc, je vous garantis rien. Sur ma chaîne. Ah oui, sur ma chaîne, sur ma chaîne. Oui, non, sinon je vous l'aurais précisé, ce sera bien sur ma chaîne. Ce sera sur ma chaîne. Et le truc, donc, c'est ce sera en public. Ce sera en public. Oui, ce sera en public. Ce sera gratuit. Et pour s'inscrire, et bah c'est comme je vous l'ai annoncé, ce seront les donateurs de Backseats qui recevront le lien d'invitation en priorité, qui auront la possibilité de s'inscrire pour cet événement, pour venir dans le public. Et s'il reste des places, ce sera ouvert à tout le public. Donc le club Backseat, c'est à ça que ça sert. Je vous rappelle, le club Backseat, quand vous faites partie du club, vous avez des possibilités de vous inscrire à des événements, soit des événements que j'organise ou auxquels je participe ou avec des partenaires. Voilà. Donc, par exemple, dès ce mois, dès le premier mois, les membres du club Backseat vont pouvoir s'inscrire prioritairement pour cette émission démo stream à l'Académie du Climat, mardi 26 de 18h à 20h. Et Paul and Chill, mon festival, qui aura lieu le samedi suivant, là aussi, l'inscription sera prioritaire pour les membres du club Backseat. D'ailleurs, la billetterie, vous allez recevoir un mail bientôt pour le Paul and Chill, donc mon festival, Paul and Chill, le samedi 30. Vous allez recevoir un mail là très bientôt, les membres du club. Hein. Vous allez recevoir un mail pour vous inscrire. Je vous rappelle que c'est gratuit. Et vous verrez, il y a deux inscriptions possibles. Vous pouvez vous inscrire pour le festival Paul and Chill à proprement parler de midi à 19h. Donc l'émission en live, en public, etc. Et vous pourrez aussi vous inscrire, il y aura une deuxième billetterie pour la fête après, parce qu'on va faire la teuf, hein. Le DJ set, la zik, on va onduler sur la piste de danse. Voilà. Et donc il y aura deux billetteries séparées, parce qu'il y a beaucoup plus de place, évidemment, pour la partie fête que pour la partie stream. Ou la partie stream, bah, vous serez assis, il y aura des chaises, il y aura machin, vous aurez accès au bar, il y aura une carte. Alors on a visité, en plus hier on a fait une réunion de visite du bar pour caler techniquement où est-ce qu'on met la scène, comment on organise les circulations et tout. Ça va être génial, j'ai trop hâte de vous présenter Paul and Chill. Et on a vu avec le barman, et il y aura à boire, il y aura à manger, etc. Est-ce que les membres du club Backseat pourront acheter plusieurs tickets pour venir avec un plus un? C'est une drôlement bonne question que tu poses. Je ne pense pas. Je ne pose pas. Je ne pense pas, d'autant qu'on n'a pas beaucoup de place. Là, sur Paul and Chill, on a une centaine de places, pas plus. Donc, on verra. Tous les donateurs vont recevoir l'invitation, vous allez les inviter les gens petit à petit. Tous les membres du club Backseats vont recevoir un mail avec un lien d'inscription. Et ceux qui veulent venir et qui veulent s'inscrire auront qu'à cliquer et s'inscrire. Premier arrivé, premier servi, je vous le dis tout de suite, hein, je suis désolé pour les personnes qui voudraient venir et qui se disent « Ah merde, il n'y a plus de place. » Désolé, c'est un peu le jeu. Mais vous pourrez venir faire la teuf après, si là aussi il y a encore des places. En vrai, sur la partie teuf, je vous avoue que le but, de toute façon c'est gratuit, hein, c'est pas payant. Le but pour nous, c'est surtout d'avoir la jauge pour voir avec le bar combien il y a de personnes et tout. Si on remplit complètement le bar avec des billetteries, bon bah du coup il y aura quelqu'un à l'entrée qui vérifiera que vous avez un billet pour rentrer. Et s'il reste de la place, bah, c'est un bar, donc on pourra ouvrir les portes et les clients habituels du bar pourront rentrer. Pas forcément très à l'aise à venir tout seul, je verrai. Oh, t'inquiète, en tout le monde vrai, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit et je vous le redis encore une fois. N'hésitez pas à venir seul, même si vous avez peur de connaître personne, même si machin. Il y a plein de gens qui viennent seuls. C'est pareil pour le public de Backseat. Il y a plein de gens qui viennent seuls et vous rencontrerez sur place des gens aussi cool que vous, aussi sympas que vous, aussi intéressés que vous par Backseat, par tout ça. Donc voilà. De tous les âges, mais de tous les âges, absolument. Ouais. Ça va du lycéen au soixantenaire. Non, tu mens, personne n'est aussi cool que moi. Blacky Nounours, je prends ça pour un défi. T'as intérêt à enflammer le dance floor à Paul and Chill. Attention, hein. T'as intérêt à mettre le feu. Bref, donc voilà. D'ailleurs, puisqu'on en parle, jeudi, ce jeudi-là, c'est la reprise de Backseat en studio, dans le même studio que l'année dernière, dans le 20e arrondissement de Paris. Si vous voulez venir dans le public, venez, les places sont ouvertes. Regardez, il y a Mobot qui vient de vous mettre un lien dans le chat. Donc vous cliquez sur ce lien et vous venez. Je vous rappelle que nous avons le plaisir d'avoir un nouveau tarif de billetterie. Allez, je vais vous montrer. Nouveau tarif de billetterie. Si vous voulez venir assister dans le public de Backseat, hop. Billetterie, tac-tac. Vous cliquez sur la date, vous cliquez sur suite. Tarif réduit ou plein tarif 35 euros. Au lieu des 49 euros l'année dernière. Donc venez, venez manger des nems, venez dans le public, venez passer une soirée cool en notre compagnie sur le plateau de Backseat ce jeudi, ça me ferait plaisir de vous voir. Il nous reste des places d'ailleurs, il nous reste des places donc venez. Salut Jean, est-ce qu'il y a des endroits où dormir pas trop cher autour du studio? C'est une bonne question. Ça dépend ce que tu cherches, je sais pas, Airbnb, hôtel. Peut-être que sur le Discord de Backseat, sur le Discord de Jean Massier, pardon, sur mon Discord, tu peux peut-être trouver des Parisiens qui ont de la place pour t'héberger et tout. Enfin voilà, s'il y a des solutions comme ça qui peuvent se trouver, en vrai. Voilà. J'ai une question un peu délicate, mais est-ce que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite? La réponse est oui. Oui, je suis très heureux. Le studio où est tourné Backseat est de plein pied avec le trottoir, avec la rue. Donc c'est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. On a déjà accueilli des personnes dans le public en fauteuil roulant. Donc oui, c'est complètement accessible. Pareil pour Paul and Chill, ce sera accessible au public à mobilité réduite. C'est de plein pied. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de rampe galère et tout. Donc ça, c'est cool. C'est full accessible. L'émission avec la mairie de Paris le 26, je ne saurais pas vous dire. Je voudrais pas trop m'avancer, ça m'emmerderait de vous dire que c'est accessible alors que ça l'est pas. Je vais me renseigner et je reviens vers vous. Donc voilà. Donc voilà. Et du coup, il y avait quelqu'un qui demandait où en sont les paliers. Eh ben regarde, on va regarder ça ensemble. Point d'exclamation kiss-kiss. Merci Talion pour ton resub. Hop. Point d'exclamation kiss-kiss. Où est-ce qu'on en est? Boum. Le prochain palier, on est à 16 848 euros par mois de financement pour Backseat. Le palier suivant, c'est 17 000 euros. Quand on atteindra 17 000 euros, il y aura une cover au piano du générique de Backseat par Claire. Elle s'est engagée à le faire. Elle nous a dit dans quoi je me suis embarqué. Merci Claire. Que 30 000 euros d'objectifs pour des émissions à 13 000 euros, t'as pas trouvé d'autres sources de financement? Ben si, les partenariats. Les partenariats, les bifors. On va continuer à faire des partenariats. Et donc, du coup, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, pour le Backseat cette année, le mode de financement de Backseat cette année va être un financement mensuel. On ne vise plus un paquet d'argent à l'année. On essaye de viser un financement mensuel, ce qui nous permet d'avoir de la visibilité pour le financement de Backseat et ce qui nous permet aussi d'avoir de la visibilité sur plusieurs années. Parce qu'à partir du moment où on a un bon nombre d'abonnés, alors j'aurais plus besoin de vous emmerder avec le pognon en permanence en vous disant faites des dons, soutenez Backseat, etc. À partir du moment où on a 30 000 euros par mois, on peut compléter avec des bifors et ça nous permet d'avoir un Backseat par semaine pendant toute l'année. Et on peut faire des saisons 4, 5, 6, etc. C'est ça le but de cette saison. Et donc c'est pour ça qu'on vous incite cette année. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a fait une enquête. Auprès des donateurs de Backseat, auprès des gens qui ont soutenu Backseat l'année dernière, et que vous étiez une grande majorité à nous dire que vous préfériez le modèle de l'abonnement plutôt que le modèle du don unique. Vous pouvez toujours faire des dons uniques si vous avez la générosité, et je vous en remercie d'avance de participer au financement de Backseat. Il suffit de faire un don unique ici. Vous mettez votre montant, vous cliquez sur « Je donne » et vous pouvez faire un don unique. Mais du coup, je vous rappelle qu'il y a plusieurs modalités de financement mensuel. Vous pouvez faire un don symbolique de 1 euro, un petit coup de pouce et on vous remercie. Vous pouvez faire un don de 2 euros et on vous remercie toujours autant. Hop, hop, hop. Et à partir de 5 euros, vous commencez à avoir des avantages. Par exemple, quand vous êtes abonné et que vous donnez 5 euros par mois pour financer Backseat, vous avez accès au VOD des émissions 24 heures avant qu'elles soient accessibles à tout le monde. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche pour que la VOD soit intégralement disponible sur YouTube. Vous l'avez dès le vendredi matin, vous recevez un mail, ou vous ne recevez pas forcément un mail, vous pouvez aussi aller dans le dans l'onglet je sais plus quoi, publication. Et voilà. Vous avez en avant-première les émissions, et ça je sais que vous y tenez. Et en plus de ça, vous avez votre nom au générique de l'émission, pour 5 euros par mois. Ensuite, pour 10 euros par mois, vous avez accès, vous avez votre nom dans le générique de l'émission, vous avez accès au VOD 24 heures avant comme les autres abonnés, mais vous avez en plus accès au live débrief privé qu'on va organiser avec l'équipe de Backseat. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous était demandé, c'est de faire des lives en session privée réservée aux donateurs de Backseat pour parler de l'émission, faire le bilan avec vous, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qu'on peut faire évoluer, etc. Répondre à toutes vos questions et tout, donc ça, on va organiser ça. Et en plus, il y aura des vidéos bonus qui vont être faites au cours de l'année, et là aussi, vous y aurez accès, c'est aussi un access premium qui vous permet d'avoir accès à différentes vidéos bonus. On va faire un making of, on va faire plein de trucs comme ça, et vous y aurez accès avant les autres internautes. Ok? Et enfin, le Club Backseat à 15 euros par mois vous donne accès à tout ce que je viens de dire, plus une carte de membre physique que vous allez recevoir par la poste, une vraie carte de membre du Club Backseat. Ouais. Que vous allez pouvoir avoir. Vous aurez en plus la possibilité de venir dans le public gratuitement en last minute. Oui. Les membres du club, s'il reste des places dans le public, bah vous recevrez une info en disant bah s'il y en a qui veulent venir ce soir, let's go. Et en plus de ça, vous aurez des invitations à des événements et autres goodies, comme par exemple Poll & Chill, comme par exemple Demo Stream, deux événements en public auxquels les membres du club Backseat auront accès en priorité. Donc n'hésitez pas à vous aussi faire partie du club. Et vous n'êtes pas obligé de faire partie du club pour venir assister à une émission. Voilà. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de Redbubble Backseat. Vous avez toujours la possibilité d'acheter des produits Backseat dans la boutique. Alors ça, par contre, c'est pas nous, ça. je peux pas gérer Backseat, par exemple. Ouais, c'est ça. Boutique Jean Massier. Voilà. Et là, vous avez accès à tous les produits. Si vous voulez être le plus beau et la plus belle, vous pouvez acheter des produits Backseat. Il y a une tonne de produits très différents les uns des autres sur lesquels vous pouvez apposer les logos, Los Republicanos. Il y a deux versions du logo. Le logo Backseat, il y a deux versions du logo. La Backseat Academy, je peux pas, j'ai Backseat. Faites-vous zizir. Faites-vous zizir. Ça participe pas énormément au financement de l'émission, mais ça vous fait plaisir, et moi aussi. Donc voilà. Rappel, porter un t-shirt Backseat augmente vos chances de 800% de pécho en soirée. Absolument, ça a été prouvé par une étude scientifique américaine. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Dans la joie, la bonne humeur et le consentement, bien entendu. La casquette a l'air jolie, j'aime bien les couleurs. La casquette est très jolie. Toujours pas de sous-vêtements, et non, toujours pas de sous-vêtements. Quelle tristesse. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu regardes. Elle est un peu galère, je vais pas vous mentir, la boutique Redbubble, c'est un peu galère de s'y retrouver. Tu cliques sur le modèle que t'aimes bien, tu fais voir les produits. Ah voilà, c'est ça. Et là, t'as accès à 54 produits. Le tapis de souris, le bob, la casquette, tous les t-shirts possibles et imaginables, les suites possibles et imaginables, la version Marcel, la version débardeur, plusieurs suites, plusieurs qualités de coton, stick adhésif pour votre PC, pochette de PC, les coques de téléphone, en veux-tu, en voilà, les coques d'iPad, le plaid, les dessous de verre, le bloc acrylique, la tenture, le sac à cordon, le tote bag, évidemment, le foulard, le mug, la gourdasse. Le petit cahier à spirale, la pochette, c'est la rentrée scolaire, faites-vous plaisir. Mmh. Hop. Hop, 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 hop. À quand l'agenda Jean Massier? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Donc voilà, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui participent au financement de Backseat. Et d'ailleurs, au Backseat de cet été-là, au Backseat de cette rentrée-là, jeudi prochain, on va procéder au tirage au sort des 10 derniers gagnants. L'année dernière, vous vous souvenez, il y avait des t-shirts dédicacés à gagner. Il y en a encore 10 à tirer au sort. On va les tirer au sort ce jeudi. Et vous les recevrez. Les heureux gagnants les gagneront. Les gagnants. Oh putain, la fatigue du mec. Les heureux gagnants les recevront. Voilà. Ils sont déjà tirés au sort. Ah oui, non, c'est ça, oui, c'est ça. On va signer les t-shirts qui ont été tirés au sort. Oui, c'est ça. Il en restait 10 à signer. Le tirage au sort a déjà été fait. Oui, c'est ça. Excuse-moi, Pemf. J'ai confondu. Donc voilà. Merci à vous, hein, encore une fois. Et je suis très content pour cette rentrée de vous proposer toutes ces émissions trop cool. Backseat Aluma, c'était déjà pas mal. Et ça continue ce mercredi avec la Fondation pour la recherche médicale. On fait une émission spéciale sur la recherche médicale contre la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer. Mardi prochain, démo stream en partenariat avec la mairie de Paris sur l'avenir de la démocratie. Oh là là, que de belles émissions. Donc voilà, je voulais vous faire. On reprend les bonnes habitudes, on est lundi, hein, on se remet dans le flow de l'actualité. Je voulais vous proposer une petite revue d'actu à l'ancienne. Merci Toubian. On a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans l'actualité politique. Sur la fête de l'UMA, il y a Le Monde qui a fait un article un peu récap de l'état de la gauche à l'issue de cette fête de l'UMA. Donc je vous propose qu'on lise cet article-là sur où en est la gauche. La fête de l'UMA est chaque année, c'est vrai, un thermomètre assez intéressant pour voir où en sont les discussions, où en est l'état de la gauche. Et donc on va lire ensemble cet article sur la gauche met en scène ses divisions à la fête de l'UMA. Un article de Julie Caria et de Sandrine Cassini. On lit ça et on en discute? Allez, c'est parti. Les insoumis François Ruffin et Clémentine Autain ont exprimé leur divergence avec Jean-Luc Mélenchon, lequel a fait huer son rival communiste Fabien Roussel lors d'un rassemblement où la reconquête des classes populaires était au centre des débats. Hop. Comme un parfum d'ancien monde. En débattant avec Édouard Philippe dimanche 17 septembre depuis la fête de l'humanité, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, assume de revenir aux fondamentaux. Le clivage gauche-droite, le débat respectueux entre deux camps, assorti de points de consensus sur les sujets de la croissance, l'énergie nucléaire ou la valeur travail. Tout se passe comme si on arrivait à une sorte de fin de la société du travail, estime l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe donc, avant de battre en brèche l'idée du blocage des prix prôné par le communiste. Derrière les désaccords, Fabien Roussel vise aussi la mise en scène de deux éventuels présidentiables, en conversant avec un Édouard qu'il tutoie. Qui sait, peut-être qu'on se retrouvera tous les deux candidats en 2027, imagine-t-il en aparté. Ce week-end œcuménique, organisé chaque année par le journal L'Humanité, s'inscrit dans un contexte particulier après une rentrée politique marquée par un objectif partout affiché, de la gauche au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la reconquête des classes populaires. Populaire, tout le monde a tenté de l'être lors de cette fête organisée sur l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Fabien Roussel, en premier lieu, avec son discours de samedi, tourné vers une certaine idée de la classe ouvrière, incomprise du gouvernement, selon lui, alors qu'elle est belle, elle est grande, elle parle français. Ce qui a fait d'ailleurs beaucoup réagir ce dernier item, elle parle français, la classe ouvrière. Tout en mettant en avant ses convergences avec une certaine gauche, opposée comme lui à la nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon. Invités, les socialistes Michaël Delafosse, maire de Montpellier, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ne se sont pas formalisés de l'appel du chef de file communiste à envahir les préfectures, les stations-service ou les supermarchés, lancés jeudi matin pour protester contre l'inflation. Je rappelle que Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sont des socialistes opposés à Olivier Faure et à la NUPES. Donc ils étaient bien contents de répondre à l'appel de Fabien Roussel pour eux aussi venir titiller la NUPES à la fête de l'UMA. Et comme le souligne Le Monde, Ils ont pas trop épilogué sur l'appel à envahir les préfectures. Ils ont bien évité le sujet. Voilà une photo de Fabien Roussel dans son meeting de samedi. Fabien, dans le monde où l'on vit, tout ce qui est populaire est proscrit. C'est désolé Madame Delga devant l'ex-candidat à la présidentielle, regrettant la fin des fêtes foraines, louant la chasse comme l'un des derniers espaces de sociabilité en milieu rural. On parle la même langue, Carole. On parle la même langue, Carole a mille fois raison, a abondé Monsieur Roussel. Lui fustige cette gauche toujours critique sur le goût des autres, visant sans le dire les écologistes, et un gouvernement qui organise des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires. On ressent tous les deux le besoin d'une gauche populaire qui parle autant aux villes qu'aux ruraux, a-t-il appuyé depuis le stand du Parti communiste, assis à côté de Carole Delga. Alors, quand il dit qu'il fustige une gauche critique du goût des autres, effectivement, ça vise les écologistes qui, c'est un peu le débat barbecue, tu vois. Arrêtez de nous emmerder avec votre mode de vie que vous voulez imposer à tout le monde. Si on veut bouffer de la viande, on bouffe de la viande. Si on veut rouler avec du diesel parce qu'on n'a pas le choix, on roule avec du diesel. Arrêtez de vouloir donner des ordres à tout le monde, etc. Donc ça, c'est ce qui fustige. Et par ailleurs, il fustige aussi un gouvernement qui organise des conférences pour savoir comment parler aux classes populaires. Il fait référence à la conférence de rentrée d'Emmanuel Macron, on en a déjà parlé, qui a réuni les chefs de partis d'opposition. Et à 2h du matin, ils se sont dit, tiens, au fait, comment est-ce qu'on parle aux classes populaires? Donc ça fait railler dans les rangs communistes. Donc c'est une manière de renvoyer dos à dos ces deux oppositions pour créer une ligne médiane. Pour créer une ligne médiane où visiblement Carole Delga et Fabien Roussel sont bien contents de se retrouver dans cette ligne-là qui est très anti-NUPES, anti-Mélenchon. Sur place, ce n'est pas toujours ceux qui se revendiquent des classes populaires qui étaient les plus acclamés. Au chef de file du PCF, la jeunesse a préféré d'autres stars. Jean-Luc Mélenchon, d'abord. Vendredi soir, le chef de file de la France Insoumise ne s'est pas privé de faire huer son rival communiste. « Il y a une personne qui s'en fiche de l'Union, elle s'appelle Fabien Roussel », a-t-il lancé goguenard devant un public acquis à sa cause. Avant la marche du 23 septembre contre les violences policières, l'ancien candidat insoumis à la présidentielle a justifié d'avoir besoin de faire du poutou pour se faire entendre en disant que la police tue. Comprendre, marquer les esprits avec des formules choc. La salle entière semblait en convenir et scandait « Tout le monde déteste la police ». Vous vous souvenez de cette séquence au cours de l'émission « Backseats » que vous avez pu regarder vendredi. Aussi, l'ancien sénateur socialiste était-il à l'aise pour dérouler son propos ? De nouveau, il a refusé de défendre les anciens journalistes du Journal du Dimanche qui se sont opposés à la nomination à la tête de la rédaction de Geoffroy Lejeune, proche d'Éric Zemmour. Considérant qu'ils avaient collaboré, donc les journalistes du JDD, considérant qu'ils avaient collaboré à un journal qui crache à la gueule des travailleurs et insulte les insoumis. Il a poursuivi en défendant sa stratégie de conflictualité. En conclusion, il a lancé un appel à la formation d'une jeunesse révolutionnaire. Abattez la citadelle, n'écoutez personne qui vous dira de reculer, de céder, de mollir, faites mieux, abattez ce système. Si cette fête de l'UMA devait servir de baromètre, imparfait car très francilien, c'est vrai, de la popularité des uns et des autres, Jean-Luc Mélenchon n'était pas le seul à attirer les foules. Samedi après-midi, on ne pouvait s'approcher du stand de la gauche éco-socialiste, mouvement issu d'Ensemble, ancienne formation de Clémentine Autain. Le parti avait convié la députée de Seine-Saint-Denis à débattre avec son collègue de la Somme, François Ruffin. D'ailleurs, c'était un débat qui était animé par Usul. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Pourquoi le Monde cite pas Backseat ? Oh, c'est pas grave, on va pas se formaliser, c'est pas très grave. Les deux élus, en opposition plus ou moins ouverte avec la direction de la France Insoumise depuis fin 2022, ont fait valoir leur convergence plutôt que leur divergence, scénographiant avec soin leur entente. Avec François, on arrive à des conclusions qui nous rapprochent depuis un an, a avancé Madame Autain. Pour aller chercher la majorité et convaincre au-delà des petites chapelles, François Ruffin a professé d'en finir avec le bruit et la fureur. C'est une réponse directe à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, sur le plateau de Backseat, continuait à théoriser la stratégie de la conflictualisation. Clémentine Autain a assuré que la force tranquille était depuis longtemps son profil politique. Autant de références au ton employé par Jean-Luc Mélenchon avec lequel ils prennent leur distance. En creux, ils se sont livrés à une critique de l'appareil de la France insoumise, se plaignant de l'absence de lieu pour débattre et dépasser les contradictions. « Il faut reconquérir la France des bourgs et des villages, sans mépris culturel, social », a ajouté M. Ruffin. Une façon de répéter son désaccord avec M. Mélenchon, qu'il accuse de négliger la France périphérique. Je remarque que François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon ont pris soin de ne pas se rentrer dedans directement. À la différence de Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas hésité à se nommer au moment où ils parlaient de leur opposition, Fabien Roussel, pardon, Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de Baxit a dit des mots très gentils envers Fabien Roussel, envers François Ruffin. Et François Ruffin a lui aussi fait attention à ne pas s'opposer à la personne de Jean-Luc Mélenchon, mais à une méthode du bruit et de la fureur. Évidemment, tout le monde comprend que ça fait référence à la méthode de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas un conflit direct, un conflit ouvert. Une heure plus tard, le député de la Somme, donc toujours François Ruffin, débattait sur la grande scène de l'Agora aux côtés de la députée écoféministe Sandrine Rousseau, du chef de file du Parti Socialiste Olivier Faure et de l'élu communiste de Paris Yann Brossa, qui est proche de Fabien Roussel. Là aussi, impossible de se frayer une place. Ruffin, 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 ont clamé les centaines de festivaliers venus l'accueillir en rockstar. Lors de cette fête de l'UMA, après Édouard Philippe et Fabien Roussel, la liste de ceux qui s'imaginent avoir une stature d'un présidentiable s'est allongée. Oh, je sais pas si j'aurais conclu l'article avec cette phrase, que pas méchante, hein, mais bon. C'est un article que je trouve assez intéressant pour effectivement faire un peu le bilan de cette fête de l'UMA en disant « Bon, voilà où on en est, voilà ce qui s'est dit, voilà effectivement l'état des clivages, voilà où chacun se place pour l'instant, et la suite de l'histoire va s'écrire au cours de l'année qui vient. » Ouais, non, je sais pas si la liste de la stature des présidentiables s'est allongée. Ils font référence à quoi? Clémentine Autain, François Ruffin. C'est pas nouveau. Y a pas de... Enfin, personne n'est sorti du chapeau, quoi. Ouf. C'est pas grave. Donc voilà. Bref, pas grand-chose de nouveau. Il y a des anti-Nupes, il y a Jean-Luc, et il y a des gens qui essayent d'écrire l'après Jean-Luc. Oui, enfin c'est oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est que la fête de l'UMA est un baromètre de la réalité qu'on connaît. Et effectivement, il n'y a pas de grandes nouveautés. Je pense pas qu'il fallait s'attendre à des grandes nouveautés à cette fête de l'UMA. Il y avait effectivement, comme le dit Le Monde, une mise en scène à l'occasion d'un week-end de toutes ces divergences. Et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est quoi la rêve de la citadelle? C'est une référence à Jean-Luc Mélenchon à la fin de l'émission Backseat qui, répondant à une question du streamer politique Jean Massier, a invité les jeunes à abattre la citadelle pour parler du système politique, du système économique, du système médiatique que lui et sa génération ne sont pas parvenus à abattre. Donc c'est ça la rêve de la citadelle. C'est une phrase qu'a utilisée Jean-Luc Mélenchon. T'as vu le débat avec Édouard Philippe, comment t'analyses ça? Je t'avoue que j'ai pas regardé le débat avec Édouard Philippe, j'ai lu des articles qui en parlaient. Mais effectivement, j'analyse une volonté de Fabien Roussel de se placer à hauteur d'ancien Premier ministre dans un débat, ce qui effectivement lui fait gagner, lui, du galon. En termes de niveau de débat, vous voyez, moi je débat avec un ancien Premier ministre, c'est ça mon niveau de dialogue, etc. Et du côté d'Édouard Philippe, je pense une volonté d'Édouard Philippe de continuer à faire jouer une petite musique anti-Macron, en tout cas qui se distingue de Macron, là où Emmanuel Macron semble vouloir mettre le camp, disons, NUPES, en dehors de l'arc républicain acceptable. Édouard Philippe, lui, veut se montrer plus ouvert, plus tolérant et plus tempérant que Emmanuel Macron, et donc il vient avec plaisir à la fête de l'UMA, répondre à l'invitation des communistes à débattre, etc. Comme d'habitude, chacun a une carte à jouer et c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc moi je l'analyse un peu comme ça, quoi. Voilà, on peut se parler. Et puis, oui, non, on peut même aller plus loin dans l'analyse. Édouard Philippe, en acceptant de dialoguer avec Fabien Roussel, marque aussi un petit peu une différence entre une gauche avec laquelle on peut parler, celle de Fabien Roussel, et une gauche avec laquelle on ne peut pas parler, celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est aussi une manière d'enfoncer un coin de divergence entre deux gauches, etc. Édouard Philippe veut recréer le clivage droite-gauche en récupérant la droite. Oui, mais si tu dis ça, tu n'expliques pas pourquoi est-ce qu'il vient à la fête de l'UMA. Tu vois, à ce petit jeu-là, c'est pas à la fête de l'UMA que tu vas séduire la droite. Donc je pense que c'est un peu plus subtil que ça, mais je vois ce que tu veux dire. Au demeurant, t'as pas tort. Est-ce que ce serait pour recentrer le macronisme plus à gauche? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'option choisie par Édouard Philippe. D'ailleurs, il a dit clairement qu'il était contre le blocage des prix, etc. Donc non, je pense pas. Je pense que c'est plus une question de méthode qu'une question de fond. Mmh. Donc voilà. Ruffin acceptable pour lui. J'en sais rien, il n'a pas débattu avec Ruffin. Édouard Philippe a toujours eu un tropisme droite populaire, qui fait qu'il pourrait bien avoir eu des votes à gagner à la fête pour lui. Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Ce côté un peu chiracien, alors pardon pour le cliché absolu, mais oui, ce côté chiracien de droite populaire, effectivement, qui n'appartient pas à ces élites bancaires mondialisées, machin, de l'ultra-capitalisme très macronien, qui se rapproche davantage, effectivement, d'une droite des campagnes, d'une droite des petits commerçants. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, est-ce qu'il l'est? Je suis pas en train de l'affirmer. Est-ce qu'il veut le devenir? Certainement. Il y a clairement une volonté de sa part. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit assez justement Le Monde. Cette volonté de reparler aux classes populaires, qui est partagée par toute la gauche et même jusqu'à Édouard Philippe, qui lui aussi souhaite parler aux classes populaires. Donc, ouais. C'est pas Darmanin, ça. Mais si, Darmanin aussi. Si, complètement. La rentrée politique de Darmanin était complètement ancrée là-dedans. Reparler à la France populaire, etc. Machin, complètement. Ça, clairement, je suis d'accord avec Le Monde. C'est une bonne analyse de cette rentrée politique 2023, la reconquête des classes populaires. Voilà. Ça, c'est le mot d'ordre pour toute la classe politique. Donc, ouais. Le Pen essaye clairement d'être dans la lignée de Jacques Chirac quand tu l'entends. Oui, absolument. Alors, bah ça, on continue dans la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, je suis d'accord. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle, regardez, hop, putain, c'est fou ce qu'elle a bien fait cette revue d'actu. J'ai un article qui, justement, explore cette question de la reconquête de la classe politique, de sa reconquête de l'électorat perdu, de la France populaire. Un article du Figaro de Dina Cohen et de Célestine Gentilhomme. Voilà, qui essaie de synthétiser un peu cette rentrée politique. France populaire, la classe politique à la reconquête de l'électorat perdu. Avec cette photo un tout petit peu cliché de Gérald Darmanin qui joue à la pétanque, lui l'élu du Nord et ministre de l'Intérieur. Décryptage. Solidement ancrée dans le vote RN, cette catégorie de population est aujourd'hui disputée par tous les camps. Alors, solidement ancrée dans le vote RN, ça, Julien Cagé et Thomas Piketty ont sorti un livre qui essaye de. Qui rebat un petit peu cette carte-là, mais c'est aussi très intéressant. Merci Suricate pour ton Prime. Le voilà en terrain conquis. Lorsque Marine Le Pen déambule. La voilà en terrain conquis, pardon. Lorsque Marine Le Pen déambule dans les allées de la grande braderie des Nains Beaumont dans le Pas-de-Calais, début septembre, après un été particulièrement discret, la double finaliste à la présidentielle, chantre de la lutte pour le pouvoir d'achat, se sent comme chez elle. Ici, dans son fief des Hauts-de-France, auprès de ces Français qui tentent à chaque scrutin de la porter à la victoire. Cet électorat parfois modeste, aussi appelé populaire, et que ses concurrents lorgnent avec de plus en plus d'insistance. Cette rentrée politique a été la preuve. Cette rentrée politique en a été la preuve. En l'espace de quelques semaines, les initiatives en ce sens se sont multipliées. Encore ce week-end, à la fête de l'UMA, mais aussi dès la rentrée, Gérald Darmanin, le premier, a ouvert le bal au cours d'une journée de réflexion le 27 août dernier, consacrée aux attentes de la France populaire. Justement. Merci Tifok pour ton resub, merci beaucoup. Pour s'adresser à elle, le ministre, à elle, donc la France populaire, pour s'adresser à elle, le ministre de l'Intérieur a réuni un millier de personnes dans sa ville de Tourcoing, dans le Nord, dont il a été maire, dont il est toujours maire d'ailleurs, je rappelle. Au menu, merguez frites avec les doigts, et au programme, jeu de bourle, la pétanque locale. Ah! Pardon! C'est le jeu de bourle. Pardon, pardon, pardon. Oh là là, le parisianisme de ce Jean Massier terrible, qui confond le jeu de bourle et la pétanque. Mon Dieu! Il est plus maire. Ah, il est plus maire de. Mais je croyais qu'il pouvait cumuler, je comprends plus rien. Le streamer a fauté. Ah, là, je plaide totalement coupable. Alors là, ça, c'est mon parisianisme qui parle. Désolé, j'ai confondu. Ah, mais oui, c'est ça, les gros trucs, là. Oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Il est premier adjoint. Ah bah putain, il nous aide pas. Hein. Ok, d'accord. Bon, premier adjoint. Donc il est toujours élu dans l'exécutif, donc il cumule bien les mandats, mais c'est pas un mandat ministre, donc il a le droit, tout ça, tout ça, tout ça. On en reparlera de la question du cumul de mandats, notamment parce qu'Edouard Philippe en parle. On continue. Merguez frites, machin, avec les doigts et au programme jeu de bourre, la pétanque locale. Pas suffisant pour reconquérir un électorat, certes, mais assez pour poser les premiers jalons et pour donner le ton. À 4 ans de la prochaine élection présidentielle, c'est de ce côté-là que les regards se tournent, quitte, pour le prouver, à égratigner le bilan de la Macronie, comme l'a fait Gérald Darmanin. Il a égratigné le programme de la Macronie? Le bilan de la Macronie? Ah ça m'intéresse. Rappelant à chaque occasion ses origines modestes et sa mère femme de ménage, le numéro 3 du gouvernement n'a pas hésité à dénoncer le côté trop techno de certains de ses collègues. Est-ce qu'il parlerait pas un peu de Gabriel Attal indirectement? On va en reparler. Des mots justes, salués par Édouard Philippe, décrivant ce que les Français vivent et éprouvent au quotidien. Une reprise du traditionnel procès en déconnexion, susceptible de creuser un peu plus encore le fossé entre le peuple et donc faire progresser le RN. Le fossé avec le peuple et donc faire progresser le RN. Terrain sur lequel Marine Le Pen a de toute façon plus d'un train d'avance. Selon l'IFOP, en 2017 comme en 2022, 34% des catégories populaires ont voté pour elle, contre 16 à 18% pour Emmanuel Macron. Ça va dans le sens, en partie, de ce que disent Julia Cagé et Thomas Piketty dans leur dernier livre sorti cette rentrée. L'électorat de Macron n'a jamais été un électorat aussi bourgeois, par opposition à une France populaire qui, pour le coup, se réfugie davantage chez le vote Marine Le Pen, le vote Jean-Luc Mélenchon ou dans l'abstention. Après un an de mandat, on a réussi à voter et à faire avancer le pays. Mais on a aussi vu des gens manifester dans la rue et même parfois devenir violents, se défend Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord et proche de Gérald Darmanin. L'élu a consacré son été à cette difficile équation, aux côtés du ministre de l'Intérieur, de son collègue Olivier Dussopt et d'une poignée d'autres macronistes. Elle a signé fin août une tribune dans l'Obs, appelant à ce que la culture, encore trop réservée aux élites, retrouve sa boussole populaire. Un coup de peinture en plus pour tenter de raviver la façade de la majorité. Mais il se pourrait que les troupes d'Emmanuel Macron n'arrivent pas à se défaire de l'image de président des riches et de président des métropoles qui collent à leurs champions. Tout ça, c'est du carton. Chez Darmanin, ils étaient encore tous en costume-cravate. C'était juste de la mise en scène pour faire un meeting politique. Raille ainsi le député PS Philippe Brun, lequel se revêt comme un dépositaire exclusif de la France populaire. Dans la lignée de l'insoumis François Ruffin, en pointe sur ces questions, le jeune socialiste tente d'imprimer sa marque. Je vous rappelle que le livre de François Ruffin, publié l'an dernier, qui s'appelle « Je vous écris du front de la Somme », parle précisément de ce sujet de la reconquête des électorats populaires, notamment des anciens bassiens ouvriers, notamment de la Somme, sa circonscription. Ce livre est réédité en cette rentrée. François Ruffin ressort son livre « Je vous écris du front de la Somme » avec une nouvelle préface en cette rentrée. Lors de sa deuxième édition de la fête populaire dans sa circonscription de l'Eure, il y en avait pour tous les goûts. Une foire à tout, avec manège et brocanteur, une ode aux Français modestes dans lesquels l'énarque enjoignait son parti qui s'est embourgeoisé à prendre un sérieux tournant populaire. C'est une référence à François Ruffin, ça. Mais François Ruffin, il n'est pas énarque. Attends, excusez-moi, j'ai pas compris. Le député Philippe Brun se rêve en dépositaire exclusif de la France populaire dans la lignée. Bon, j'ai pas bien compris l'enchaînement entre les deux paragraphes, là. Donc la fête populaire, c'était de Philippe Brun. C'était pas de Philippe Brun, il est énarque, oui. Oui. Bon, peu importe. Donc sa fête populaire, dans l'heure. Ben oui, dans l'heure, c'est Philippe Brun. Pardon, excusez-moi. Un discours modestement appelé l'appel de Léry. Quelques camarades de la NUPES ont même répondu à l'invitation de cette grande kermesse politique, comme un pas de côté pour montrer que la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée nationale, bruyante et vindicative, tente à être revue. Je vois pas le rapport pour le coup. J'entends cette deuxième partie du paragraphe là sur la tactique à l'Assemblée nationale, mais je vois pas le rapport avec une fête populaire dans l'heure où on dit ouais il faut retrouver l'électorat populaire. J'ai un petit désaccord avec l'analyse. Soigner la forme tout en voulant préserver le fond, c'est aussi le problème auquel se confrontent les Verts qui peinent à se départir d'une image écolo-bobo. En même temps, quand on les écoute sur scène parler de mobilité douce, ils sont vraiment à côté de la plaque. Ils ne peuvent pas juste dire un vélo, souffle un élu de gauche. Genre non, j'en sais rien, tiens, c'est une bonne question, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut continuer à parler de mobilité douce, quitte à faire un peu trop écolo, bobo, techno? Ou est-ce qu'il faut dire un vélo pour être plus clair, pour que, je sais pas, s'il y a un côté prendre les classes populaires pour des connes, non? Tu vois, je sais pas. Genre, merci Arthur pour ton prime. Je sais pas, comme si les classes populaires étaient, ils pouvaient pas comprendre, ils étaient trop bêtes pour comprendre que mobilité douce, c'est le vélo, mais aussi d'autres mobilités non moteur thermique. Non, je sais pas. Bon, si vous voulez. Ok, pourquoi pas. Non, mais c'est intéressant. Ça fait très élitiste. Ok, peut-être. Mobilité douce, c'est trop vague et bobo. Ok. Mobilité douce, c'est juste nul comme terme. Bah, ça désigne un ensemble de modes de transport non polluants. Donc, marcher avec ses pieds, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il me fout? Pourquoi il m'a déconnecté du Figaro? Oh! Non, je vais pas faire ça. Voilà. J'y retourne. Dans ce cas, dit transport non polluant. Oui. Oui, mais dans transport non polluant, t'as, enfin, oui, la voiture électrique, c'est pas une mobilité douce, tu vois. C'est une mobilité décarbonée, mais. Non, mais c'est pour. Enfin, bref. Oui, non, ce sont des susceptibilités vocabulaires. Des susceptibilités, non, des. Des subtilités vocabulaires. qui permettent de désigner différentes choses. Mais j'entends le côté. Effectivement, ça fait jargonneux, on pige que dalle. J'entends, j'entends. Je reviens, j'en étais là. Le bilan n'est enfin pas tellement plus réjouissant chez les Républicains, où la droite, qui a un temps pu compter sur le vote populaire, l'a progressivement vu lui échapper. Une bande de jeunes députés, issus des circonscriptions populaires, disent pourtant essayer de faire entendre leur petite musique. C'est bien beau de faire de la politique de salon, mais on ne connaît la vie des gens qu'en leur parlant, lance Pierre-Henri Dumont, qui sillonne en vain les événements et les vide-greniers de son département, sans réussir à passer le mur du son. On se retrouve dans une situation où on considère que les classes populaires ne votent plus à droite, et donc que ça ne sert à rien de leur parler. On n'a plus de discours à leur proposer. Putain, c'est salé comme. C'est salé comme, comme analyse de la part de Pierre-Henri Dumont vis-à-vis des Républicains qui n'arrivent plus, selon lui, ils disent, mais de toute façon, on n'a plus rien à leur dire, nous les Républicains. Et à une époque, on avait des trucs à leur dire, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il n'y a plus que Marine Le Pen qui a leur oreille et tout. Oh non, c'est intéressant. Tout l'enjeu pour les partis lancés dans cette vaste opération reconquête de l'électorat perdu sera de parvenir à leur fin sans se désintéresser pour autant des autres catégories de la population, celles qui lui restent encore et qui sont jusqu'ici. Et qui ont jusqu'ici manqué à Marine Le Pen pour espérer l'emporter. Ok, donc cette analyse qui effectivement fait un peu un panorama des différents camps politiques qui essayent tous à leur manière de reconquérir un électorat populaire, parfois en le fantasmant un peu, parfois en le prenant un peu pour un con, j'ai l'impression, mais c'est intéressant. Sacré aveu d'échec quand même. Oui, au demeurant, c'est dur, mais le constat est assez juste. Les Républicains n'arrivent plus à parler aux classes populaires par rapport à les grandes époques du RPR ou de l'UMP. Donc voilà. LR, c'est devenu un vote réservé aux plus aisés, d'où les débuts difficiles d'initiative chez Pradier, mais bon, il n'a pas convaincu Ciotti. Oui, tu as raison, je suis assez d'accord avec toi. Aurélien Pradier, c'est un bon indicateur de cette tentative d'une autre voie de la droite républicaine qui essaye de reconquérir un électorat populaire en défendant par exemple le maintien de la retraite à 62 ans, quoi. C'est un exemple, mais c'est intéressant. LR, quand même, gros ancrage local. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est tout le paradoxe de cette classe politique qu'on a déjà eu l'occasion d'analyser mille fois, mais qui est effectivement un fort ancrage local chez des partis qui font des faibles scores au niveau national. Paradoxe. Paradoxe total. Donne politique nouvelle. Intéressant. Ils doivent parler à une certaine classe populaire quand même, les agriculteurs par exemple. Bah, de moins en moins. En tout cas, pas aux élections nationales, aux élections locales, oui, mais pas aux élections nationales. Enfin, il y a un paradoxe qui est intéressant. Tac, 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 tac. Tiens, bah, puisqu'on en parle de la droite, il y a un autre article que je trouvais intéressant, un article d'analyse de Clément Guillou dans Le Monde sur Jordan Bardella. Parce que Jordan Bardella, donc le président du Rassemblement national, s'est déclaré candidat à la tête de liste pour les élections européennes pour le Rassemblement national, donc pour le renouvellement de son mandat. Et justement, il y a une question, il y a un sujet intéressant de répartition des rôles entre Marine Le Pen et lui, où lui, justement, essaye d'aller conquérir un autre électorat, ce qui reste encore d'électorat qui n'est pas encore RN, mais qui est à droite, notamment chez les cadres dirigeants, etc., qui sont plus tentés par un vote LR ou un vote Macron. Là où Marine Le Pen, elle, s'occupe de l'électorat populaire, Jordan Bardella semble essayer d'aller conquérir un autre électorat. Jordan Bardella tente de séduire la droite pour élargir la base électorale du Rassemblement national. Alors que Marine Le Pen cible en priorité les classes populaires, le président du parti d'extrême droite s'efforce de séduire les classes moyennes supérieures et les retraités. Une répartition des rôles pour plus assumer entre eux. Un article d'analyse donc de Clément Guillot. Là, vous voyez Jordan Bardella qui arrive à la réunion des chefs de parti organisée autour d'Emmanuel Macron à la fin du mois d'août. Il a fait une campagne à l'américaine exemplaire. C'est même un modèle qu'on pourra étudier plus tard à Sciences Po. Ainsi parlait en 2007 Jean-Marie Le Pen au sujet de Nicolas Sarkozy, après s'être fait siphonner ses électeurs au premier tour de l'élection présidentielle. Sa fille Marine, directrice de campagne, ne partageait pas son enthousiasme vis-à-vis du personnage qu'elle trouvait faux, se souvient l'un des acteurs de la présidentielle 2007 au Front National. L'ancien chef de l'État, qui, entre deux actualités judiciaires, distribue les bons et les mauvais points à l'occasion de la parution du deuxième tome de ses mémoires, Le Temps des Combats, lu par Malek Délégué sur Twitch, bientôt, est aussi de retour dans les discussions au sein du parti à la flamme. Ah, le RN rediscute de Nicolas Sarkozy. Intéressant. Cet été, le député du Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu, s'est rafraîchi la mémoire en revisionnant La Conquête, le film de Xavier Duringer, en 2011, retraçant, dit-il, la meilleure campagne de ces 15 dernières années, qui n'était pas une union des droites, mais une capacité rare à faire sauter les clivages sociologiques. Il fait référence à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans une vidéo tournée à l'occasion de la rentrée scolaire, Jordan Bardella laisse traîner, en évidence sur son bureau, le dernier opus sarkozyste. Comme c'est bien joué de la part de Jordan Bardella. Faire un gros clin d'œil à l'électorat de droite orphelin de Nicolas Sarkozy. Merci Adra38. Le pavé est au même endroit quelques jours plus tard quand les caméras de France 3 l'interrogent. J'avais déjà lu Le Temps des Tempêtes. C'était le livre précédent. Leur signale le président du mouvement d'extrême droite qui doit lancer sa campagne pour les élections européennes de juin 2024, samedi 16 septembre, lors des universités d'été du RN à Beaucaire dans le Gard. Jordan Bardella avait 11 ans durant la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. De son propre aveu, son intérêt pour la politique n'était pas tel qu'il puisse en garder un souvenir net. En même temps, 11 ans, c'est jeune. « J'ai admiré le personnage », disait-il toutefois au Monde en février. Il avait la capacité de tout changer, réunissant les classes moyennes, l'ouvrier d'Aubervilliers et le cadre sub de Versailles. Je pense que c'est la clé du pouvoir et qu'on est sur ce chemin-là. Parler au-delà de la France des oubliés à la France qui se lève tôt, un label sarkozyste. Donc effectivement, Jordan Bardella assume complètement de placer ses pas dans les pas du Nicolas Sarkozy de 2007. Effectivement, le Nicolas Sarkozy qui a réussi cet énorme tour de force de faire voter une droite populaire ouvrière, une droite classe moyenne supérieure et une droite aisée, bourgeoise, versaillaise, etc. En ce début de campagne des élections européennes, celui qui sera la tête de liste du RN tente d'emprunter le sillon sarkozyste. Monsieur Bardella encourage ses troupes à recréer l'UMP. Rapporte le Figaro. Putain, intéressant. Le RN n'a pas l'armée de militants, de cadres locaux et politiques chevronnés qu'avait la formation de droite lors de l'ascension de M. Sarkozy au pouvoir, ça c'est vrai. Mais rien ne l'empêche d'en adopter certains accents. Auprès d'un parti qui veut désormais renforcer son implantation chez les classes moyennes supérieures et les retraités, le candidat Sarkozy exerce une forte attraction, bien que son action à l'Élysée demeure largement rejetée. Dans la bouche de quelques-uns des néo-députés de la vague élue en juin 2022, on entend les comparaisons avec le Rassemblement pour la République, le RPR, d'antan. Tentative d'extraire le RN du camp des extrêmes, auquel son programme fondé sur la préférence nationale et le rejet de l'Union européenne le ramène inexorablement. Le député des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio, ancien de l'UMP, n'a-t-il pas récupéré la marque RPR pour fonder un mouvement local d'union des droites ? Quelle ironie de l'histoire de parler de RPR à propos d'une union des droites, alors que le RPR était justement le dernier des partis à refuser l'alliance avec l'extrême droite, à tenir le fameux cordon sanitaire dont je vous ai déjà parlé, jusqu'à faire alliance avec l'UDF pour créer l'UMP. C'est extraordinaire d'ironie de l'histoire, quoi. C'est fou. Dans le duo Marine Le Pen-Jordan Bardella, au sein duquel le rapport hiérarchique est de moins en moins affirmé, c'est au cadet de 28 ans que revient l'incarnation de la jambe la plus droitière. À Marine Le Pen revient celle d'un national-populisme qui s'adresse à une partie des classes populaires. Le national-populisme, c'est un mot qui a souvent été utilisé pour désigner le lepénisme politique, comme un certain type de nationalisme très propre à Jean-Marie Le Pen, qui se rapproche du national, donc voilà, le national-populisme, à utiliser avec des guillemets, mais qui désigne le lepenisme. Depuis les violences urbaines du mois de juillet, la double finaliste de l'élection présidentielle a acté le principe d'une répartition des rôles encore plus assumée qu'elle ne l'était. Cela vaut pour la différence de stratégie médiatique. À elle, la rareté, à lui, l'omniprésence. Comme politique, à elle, la figure protectrice, à lui, celle d'autorité. C'est intéressant, ça. Parce que là aussi, omniprésence plus autorité, c'est 100% Sarkozy 2007. 100%. Donc effectivement, c'est de plus en plus assumé, je trouve ça intéressant. Elle considère qu'il touche des gens différents et que c'est à exploiter, explique-t-on dans le premier cercle de Marine Le Pen. La chef de file de l'extrême droite a laissé Jordan Bardella bénéficier de l'exposition offerte par Emmanuel Macron, qui l'a convié personnellement par téléphone aux rencontres de Saint-Denis le 30 août. À l'issue, les proches du chef de l'État ont distillé des propos flatteurs à son endroit, louant son attitude générale et sa préparation. Qu'importe qu'il ait dans sa lettre de proposition aux locataires de l'Élysée, confondu défiscalisation et exonération de cotisations patronales. Les mots du camp présidentiel visent à piquer la jalousie de Marine Le Pen, qui ne montre pour l'heure aucun signe d'agacement. Elle a même validé la publication d'une tribune de M. Bardella sur la présence française en Afrique le 31 août dans Valeurs Actuelles, elle qui considère pourtant l'international comme son domaine réservé. Le Pen qui se représente au présidentiel, c'est crédible, j'ai du mal à y croire. C'est marrant parce que moi, c'est Marine Le Pen qui ne se représenterait pas, auquel je n'arrive pas à y croire. Hop. Je vois pas du tout pourquoi Marine Le Pen ne se représenterait pas. Elle a jamais été aussi proche du pouvoir de l'Élysée. Il faudrait un retournement de situation shakespearien pour qu'elle se présente pas, quoi. Omniprésent, cette rentrée politique, le jeune homme, donc toujours Jordan Bardella, tente de s'ancrer à droite, même s'il conserve sa matrice populiste qu'il reprend dans le Figaro en dépeignant M. Macron comme politiquement de nulle part. Mérite, autorité, charge, taxe, celui qui incarne la marque identitaire et sécuritaire du RN s'efforce désormais de reprendre les mots traditionnels du parti Les Républicains. Interrogé sur RTL le 12 septembre, il aborde ainsi la question des salaires. Il faut permettre un petit coup de pouce salarial, ce que beaucoup de chefs d'entreprise ne peuvent pas faire compte tenu du niveau de charges délirant dans notre pays. En février, il avait déjà lancé depuis un château de la Sarthe une campagne de communication baptisée « Où passe notre argent ?», dépeignant une France championne d'Europe des impôts et des taxes. Le Pen a pour la première fois une chance. Pourquoi elle abandonnerait par contre une candidature dissidente de Jordan, t'y crois ? Pas du tout. Je crois pas du tout à une dissidence de Jordan Bardella, bien au contraire. Je vous rappelle qu'il y a eu un précédent en termes de dissidence qui s'appelait Florian Philippot. Florian Philippot, c'était le jeune techno-intellectuel star du Rassemblement National sur lequel Marine Le Pen misait énormément. À un moment, Florian Philippot a tenté de se séparer de Marine Le Pen pour lancer son propre mouvement. Il s'est pété la gueule en moins de 6 mois. Jordan Bardella, à mon avis, ne refera pas cette erreur-là. Sûrement pas. Il a bien compris qu'il avait intérêt à rester dans le giron de Marine Le Pen, bénéficier de la fusée Marine Le Pen, et un jour plus tard, on verra dans les années 2030-2040 s'il faut se barrer. On continue. Ce discours, donc le discours sur les taxes, est compensé par quelques clins d'œil à l'électorat de gauche, comme la taxation des super-profits énergétiques, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et l'opposition à la réforme des retraites. Mais tout va comme si le parti avait acté que sa marge de progression se situe à la droite de l'échiquier politique et non plus chez les abstentionnistes ou dans la gauche souverainiste, dite patriote. Ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, 2017, il y avait une vraie volonté de Marine Le Pen d'essayer d'aller taper chez les abstentionnistes, d'aller récupérer des voix chez les abstentionnistes, chez une partie de la gauche souverainiste. Elle avait ouvert les bras grands ouverts à toute une partie de l'électorat de gauche eurosceptique et tout. Et là, visiblement, il y a un shift de positionnement qui est opéré en disant en vrai, c'est pas chez eux qu'on va gagner des voix. Maintenant, Maintenant, c'est chez ce qui reste des Républicains qu'on va réussir à aller récupérer des voix. Il faut maintenir et élargir notre nouvelle base sociologique née des législatives. Il n'y a plus dans notre électorat cet aspect déclassé contre élite. Souligne Pierre-Romain Thionnet, le bras droit de Jordan Bardella. Il ne faut pas laisser dire qu'on est socialiste. Oui, non, je vois pourquoi il dit ça. C'est particulièrement vrai à l'aube d'un scrutin européen. En juin 2024, où l'abstention différenciée devrait jouer contre le RN. Les classes populaires s'exprimant traditionnellement peu dans ces élections. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour pas se péter la gueule à un scrutin intermédiaire où les classes populaires votent peu, bah t'as pas intérêt à tout miser sur les classes populaires et les abstentionnistes parce que tu vas pas y arriver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'idée. Ceux qui aujourd'hui s'intéressent aux européennes sont très politistes, sont très politisés et plutôt à droite. C'est le lectorat du Figaro. Parler aux classes populaires de cette élection en septembre, c'est parler à des gens qui ont bien d'autres préoccupations, explique Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Ok. Donc non, mais ça a le mérite d'être clair, hein. Le RN n'hésite pas à abandonner les classes populaires quand il s'agit de gagner des voix chez des gens un peu plus bourgeois et un peu plus votants. Ok. En fonction des élections. Ça a le mérite d'être clair. Le RN avait déjà revu à la baisse ses ambitions sociales dans son programme présidentiel de 2022 et envoyé plusieurs signaux favorables aux employeurs au long de la première année de législature. Une évolution peu visible dans son discours, focalisé sur le pouvoir d'achat et l'immigration et le magma des débats parlementaires. Jordan Bardella se positionne pour être celui qui incarne ce RN plus droitard, un mot que Marine Le Pen prononce avec un dégoût non dissimulé. Dans les enquêtes d'opinion, il est bien plus qu'elle très apprécié par les électeurs de droite et d'Éric Zemmour. Si Jordan n'était que Marine avec ses cheveux courts, cela n'aurait que peu d'intérêt, estime Sébastien Chenu, lui-même issu de l'UMP. Jordan a son espace et doit aller le prendre. L'intérêt est qu'il puisse continuer à élargir notre base électorale. Il nous faut des profils et des sensibilités différentes. C'est un de nos défis, reconnaît-il. Sauf que dans le même temps, le président du RN ouvre aussi les bras à Reconquête, faisant mine de croire à une union de leurs forces pour le scrutin du 9 juin 2024, malgré les supposées différences de nature entre deux visions économiques et sociétales. Et alors que Marine Le Pen a toujours refusé de se lancer tenter par l'Arlésienne de l'union des droites. Le risque de ces multiples manœuvres est d'écailler franchement le vernis, ni de droite ni de gauche, que la dirigeante d'extrême droite, à la suite de son père, a patiemment apposé sur le parti à la flamme. Parti à la flamme, c'est le Rassemblement national, puisque le logo du FN, c'était une flamme. Et de se perdre dans des tactiques électorales, alors que l'option ni de droite ni de gauche fut une des clés de l'explosion des scores lepénistes après la scission de Bruno Maigret en 1999. C'est très intéressant cette conclusion de Clément Guillot, je suis intéressant. Oh, je suis fatigué surtout, je suis intéressé parce qu'effectivement, je vois ce qu'il veut dire en disant, en fait, dans cette petite tactique, dans ce petit pas de deux de non, mais c'est bon, on n'est plus le RN classe populaire versus les élites, on veut réussir à faire voter RN à tout cet électorat, pardon pour le cliché, mais cet électorat qui joue au golf, qui va à Roland-Garros, enfin voilà, un peu plus classe moyenne supérieure, voire bourgeoisie, élite urbaine, électorat de droite, patron, etc. L'idée de Clément Guillot, c'est dire, en fait, à jouer à ce petit jeu-là, à jouer la normalisation jusqu'à rentrer dans les pas d'une UMP, bah tu risques en fait de perdre tout ce qui a fait la force du RN dans les scrutins politiques de 2017 et 2022, et même avant plus tôt, c'est justement ce côté ni de droite ni de gauche, on envoie tout balader, anti-système, etc. C'est déjà un peu le cas en 2022 avec Reconquête. Ouais, mais alors c'est paradoxal parce que Reconquête a plus réussi à choper des électeurs bourgeois, justement, que des électeurs populaires de Marine Le Pen. Ce qui explique en partie l'effondrement du score de Éric Zemmour. Éric Zemmour, il espérait siphonner l'électorat populaire de Marine Le Pen. En fait, non, l'électorat populaire, il est resté avec Marine Le Pen et lui, il a réussi à siphonner, bah. Plutôt de plus ouais, plutôt du chef d'entreprise, du cadre dirigeant, du classe supérieure. Intéressant. Zemmour n'a pas compris que les gens ne sont pas obnubilés par l'immigration, le social ça compte aussi. Bah exactement. Et par ailleurs, il y a aussi eu la guerre en Ukraine qui est venue perturber quand même considérablement le narratif d'Éric Zemmour. Qui avait fait l'intégralité de sa campagne sur l'immigration et sur l'islam, bah, on a eu une élection présidentielle dans un contexte de guerre en Ukraine qui fait que l'attention a davantage été portée vers Moscou que vers Alger ou vers Lampedusa, tu vois. Que penser de l'union des droites à la Bruno Maigret? Bah justement, la thématique de l'union des droites, elle est intéressante aussi parce que Marine Le Pen, comme son père, Jean-Marie Le Pen, refuse l'union des droites. Ils ne veulent pas en entendre parler, ça les emmerde, c'est pas leur truc, etc. Foutez-nous la paix avec ces histoires et tout. Sauf que là, ce qu'on vient de lire comme article montre qu'il y a un Jordan Bardella qui semble tenter de dire OK pour une union des droites sur la base du lepénisme. Donc il va tenter cette technique de l'union des droites sur la base du lepénisme. On verra. Pourquoi tu cites Alger? C'est un peu raciste. Bah oui, c'est Éric Zemmour. Je suis désolé. Éric Zemmour, il a essayé de focaliser l'attention de l'électorat en direction du Maghreb, en direction des Algériens, etc. En disant c'est eux la menace, c'est eux qui nous envahissent, c'est eux machin. C'était sous son truc sur la submersion migratoire, sur l'invasion, etc. Il dit oui. Oui, c'était raciste. Oui, je te confirme que la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en 2022 était une campagne raciste. Oui, tout à fait. Les Sarrasins, messire. Oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Donc, ok, d'accord. Ok. À garder en tête la question Jordan Bardella. Donc Jordan Bardella, je vous le disais, président du Rassemblement National, candidat tête de liste pour le Rassemblement National aux élections européennes, bras droit de Marine Le Pen, qui s'affiche de plus en plus comme une complémentarité à Marine Le Pen, essayant de séduire davantage un électorat de droite classique. C'est donc le RN qui va siphonner l'électorat de LR. Puisque LR n'a jamais réussi à siphonner l'électorat du RN et que ça va probablement même finir par lui coûter son existence. Puisqu'on en parle, tiens, c'est fou comment cette revue de presse est bien faite, cette revue d'actu. Il y a un projet de loi, je vous rappelle, qui va arriver. Bardella sûrement en tête d'être en bonne position pour 2027. Non, pour l'instant, c'est Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National en 2027. Il est hors de question que ce soit autre chose. Il faudrait qu'il arrive à Marine Le Pen un accident vasculaire cérébral ou un décès ou je sais pas quoi pour qu'elle ne soit pas candidate. Donc pour l'instant, Jordan Bardella n'a aucun intérêt à se présenter face à Marine Le Pen. Aucun, 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 aucun. Le mec, il a 28 ans, il a une vie politique devant lui. Marine Le Pen, elle construit depuis 15 ans maintenant une carrière politique. Donc ouais. Ou un changement d'opinion. Ou alors un retournement d'opinion, effectivement, il faudrait que... Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc la loi immigration. Il y a une loi immigration, il y a un projet de loi immigration qui va arriver dans les mois qui viennent. Sujet hautement explosif après le sujet des retraites qui a déjà vu la majorité La République en marche, enfin Renaissance se diviser. La question de l'immigration va aussi voir des initiatives intéressantes et il y en a une qui est sortie dans une tribune dans Libération, une tribune transpartisane en faveur de la régularisation des sans-papiers. Et vous allez voir que c'est une tribune intéressante, on va lire la tribune et puis après on va essayer... Attends, il faut que je retrouve... Il faut que je retrouve le papier d'analyse de cette tribune parce que cette tribune elle a l'intérêt d'être cosignée par un certain nombre d'acteurs politiques, y compris de la majorité. Il y a des députés de la majorité qui cosignent des tribunes avec des gens de gauche en faveur de la régularisation des sans-papiers contre l'avis de Gérald Darmanin qui pourtant porte la loi. Le gouvernement devra-t-il compter sur un 49-3 pour pouvoir faire adopter cette réforme faute de voix de la majorité? Loi immigration, nous demandons des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Dans une tribune transpartisane, une trentaine de parlementaires allant du MoDem à ELV proposent trois mesures pour la régularisation des travailleurs sans papier, souvent en première ligne dans les secteurs en tension. On a donc un certain nombre d'acteurs autour de cette photo et je vous demande de regarder bien parce que c'est intéressant les gens qu'on voit en train de faire un truc de main là tous ensemble etc. parce que c'est très rare cette photo. On a Sacha Houlié qui est un député Renaissance mais qui est surtout le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe quel député LR. Oh putain. Oh le lapsus. C'est pas n'importe quel député macroniste. Sacha Houlié, c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On a Marie-Pierre de la Gontrie qui est sénatrice socialiste. On a Stella Dupont qui est députée Renaissance qui est ici. On a Amadou Ba qui est un cuisinier là où a été organisée cette visite dans un restaurant. Justement, les cuisiniers, c'est un très bon exemple de travailleurs sans papier. Manuel Ortier qui est chef du Mendigorilla. On en parlera dans la tribune. Et Fabien Roussel, député PCF. On en a parlé tout à l'heure, premier secrétaire du Parti communiste. Et Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts. Donc là, on a quand même une union assez étrange, assez rare, entre deux renaissances, une socialiste, un écolo, un communiste, autour, avec un sans-papier sur la question de l'organisation des sans-papiers. Ça, je vous avoue, cette tribune, moi, vous m'en auriez parlé il y a 3 mois, j'y croyais pas. Pour le moins baroque. Nous portons un projet humaniste, donc c'est une tribune, hein, un groupe de 35 parlementaires qui l'écrit. Nous portons un projet humaniste et concret. Nous souhaitons l'adoption de 3 mesures urgentes pour l'accès aux personnes étrangères au travail. Pour l'accès des personnes étrangères au travail. Tout d'abord, nous assumons la nécessité d'une régularisation de travailleuses et de travailleurs sans papier dans tous ces métiers qui connaissent une forte proportion de personnes placées en situation irrégulière. Ce sont bien souvent ceux que l'on retrouve en première ligne dans les secteurs en tension comme le BTP. BTP, je vous rappelle que c'est le bâtiment et les travaux publics, les chantiers. L'hôtellerie-restauration, la propreté, la manutention, l'aide à la personne. Des milliers de personnes sont maintenues dans cette précarité, a fortiori les vrais faux indépendants comme auto-entrepreneurs, dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement. Ces travailleurs sans papier contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner. La France qui se lève tôt, ce sont aussi elle et eux, si utiles, si nécessaires. Et pourtant, ils n'ont pas officiellement le droit de travailler, faute de pouvoir disposer d'un titre de séjour. Si ces immigrés travaillent tout de même, c'est pour survivre et parce que les employeurs ont besoin de salariés. Les pouvoirs publics ferment les yeux ou ignorent leur situation en raison du caractère indispensable de ces travailleurs pour notre économie et pour répondre aux besoins sociaux. Leur précarisation est le résultat d'une hypocrisie collective. Ne pas les autoriser légalement à travailler, mais continuer à solliciter leur concours. Sans papier, sans reconnaissance, ils éprouvent les plus grandes difficultés pour se nourrir, se loger, se soigner et accéder à une vie sociale normale. La clandestinité les invisibilise, les fragilise et les condamne à la précarité et à la désocialisation. Faute de pouvoir faire valoir leurs droits, ils acceptent de faibles salaires qui pèsent sur le niveau de rémunération dans certains secteurs. À cela s'ajoutent toutes celles et ceux qui sont présents sur le territoire national et qui sont empêchés de travailler faute de papier. Ils n'ont d'autre solution que de recourir à l'hébergement d'urgence ou à d'autres solutions de fortune, alors qu'ils ne demandent qu'à travailler. Ils pourraient le faire directement ou après une formation que de nombreuses branches professionnelles ou des centres de formation publique sont prêts à développer. L'accent doit être en particulier mis sur l'accès des femmes étrangères au travail, l'un des plus faibles de l'OCDE. Excusez-moi pour mon lapsus. La régularisation de leur situation demande de longue date. La régularisation de leur situation demande de longue date des associations qui les accueillent dans la précarité émane tout autant des organisations syndicales et patronales. Il s'agit également de rétablir le droit au travail pour les demandeurs d'asile. La loi leur impose 6 mois d'attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Cette règle a pour conséquence d'augmenter à la fois le coût budgétaire de l'allocation pour demandeurs d'asile et le recours à l'emploi non déclaré pour pouvoir survivre. Cette logique nuit considérablement à leur autonomie et donc leur facilité ultérieure d'intégration. Ça, sur la question des 6 mois avant de pouvoir travailler pour les demandeurs d'asile, à mon avis, la réponse d'Emmanuel Macron, ça va être le raccourcissement du délai de réponse pour faire valoir droit aux demandeurs d'asile, plutôt que la facilitation de travailler en attendant que la réponse arrive. Tac, 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 tac. On verra ce qu'il y a dans le projet de loi, on verra comment ça va être présenté par Gérald Darmanin, etc. Enfin, il faut d'urgence remédier à la situation d'embolie des préfectures qui conduit à fabriquer chaque jour de nouveaux sans-papiers. Pas une semaine, pas une journée sans que nos permanences de parlementaires ne soient sollicitées pour un titre de séjour dont le renouvellement est compromis faute de rendez-vous en préfecture. Le rapport de l'Assemblée nationale, alors je rappelle, excusez-moi, je fais un tout petit aparté, je rappelle que cette tribune que je suis en train de lire, elle a été signée par des parlementaires, notamment des députés. Les députés, ils ont des permanences parlementaires dans leur circonscription qui leur permettent d'accueillir des citoyens qui viennent notamment faire part de leurs difficultés administratives. Ça peut être une place en crèche, ça peut être une demande de logement, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de sans-papiers qui sont en attente de renouvellement de titre de séjour, mais ils n'ont pas de rendez-vous à la préfecture, parce que les préfectures n'ont pas les moyens, n'ont pas assez de fonctionnaires pour accueillir tout le monde et dans de bonnes conditions, donc c'est le bordel, etc. Donc voilà pourquoi ils témoignent directement en disant, nous on les voit, on les rencontre, ils viennent nous voir en circo en disant, je suis dans la merde, j'ai pas de rendez-vous à la préfecture pour renouveler mon putain de titre de séjour, je bosse en cuisine au restaurant d'à côté, ça fait des années que je bosse, j'ai besoin de continuer, sinon je vais me retrouver dans la merde avec une OQTF, etc., c'est le Dawa, etc. Le rapport de l'Assemblée nationale sur les moyens des préfectures sur l'instruction des demandes de séjour de 2021 décrit très précisément une situation qui a encore empiré depuis lors. Du jour au lendemain, faute de rendez-vous, des personnes en situation parfaitement régulière, insérés professionnellement et socialement, basculent en situation irrégulière entre deux titres et perdent leurs droits. Leurs employeurs sont quant à eux confrontés à un dilemme, perdre un employé qui répond pourtant à leurs attentes ou basculer dans le travail non déclaré pour garder cet employé. Cette situation kafkaïenne est à l'origine d'un contentieux de masse qui engorge les tribunaux administratifs sous les référés mesures utiles visant à contraindre l'administration à accorder un rendez-vous en préfecture. C'est vrai que c'est complètement lunaire. Enfin, vraiment, t'as des gens qui bossent, qui sont là, qui sont dans leur boîte, ça se passe bien, etc. Et puis un jour, ils se présentent au bureau, ils se présentent au boulot et ils disent au patron: excusez-moi, patron, en fait, vous êtes dans l'illégalité depuis ce matin, parce que j'ai pas eu de renouvellement. Vous avez rien fait, hein. Vous avez rien fait de mal, mais maintenant vous êtes dans l'illégalité parce que vous m'employez en tant que sans-papier, ce qui est illégal. Alors que, enfin, vous me payez toujours au même salaire, etc. Donc en fait, vous n'avez plus le droit de me payer. Vous avez plus, c'est illégal. Je suis au black parce que j'ai pas eu titre de séjour, donc je perds mes droits sociaux, etc. C'est délirant. C'est vraiment, on atteint un point. Mais rappelez-vous d'ailleurs, pendant la présidentielle, il y avait eu des boulangers, des restaurateurs qui avaient fait des manifs et tout en disant: mais putain, juste c'est pas possible, c'est une tracasserie administrative de merde, alors qu'on a des employés qui bossent bien, ça se passe bien, ils sont contents, enfin juste foutez-nous la paix, quoi. Donc voilà. Il est temps de fixer un délai maximal à l'administration pour accorder un rendez-vous en préfecture, comme c'est la règle pour les passeports talent, et d'augmenter considérablement le nombre de rendez-vous, y compris en présentiel, en affectant davantage de moyens aux services chargés du séjour des étrangers au sein des préfectures. Ces trois mesures sont à la fois urgentes, humanistes et concrètes. Si le gouvernement n'est pas en mesure de les faire rapidement adopter par le Parlement, nous en prendrons l'initiative. Avançons. Si le gouvernement n'est pas en mesure de les faire adopter rapidement, ça veut dire si le gouvernement ne met pas ces trois mesures dans le projet de loi immigration, alors nous en prendrons l'initiative. Ça veut dire qu'il y aura des amendements. Et à mon avis, ces trois mesures, si elles sont mises dans la proposition de loi. Ah non, attends, c'est pas vrai ce que je m'apprête à dire. Ce que j'allais vous dire, attends. Ces trois mesures, si elles sont placées par voie d'amendement, il y a moyen qu'elles soient adoptées. Mais en fait, non. Il y a moyen qu'elle ne soit pas adoptée. Parce que le RN va voter contre, LR va voter contre, une grande partie de la majorité va voter contre par fidélité à Gérald Darmanin, et du côté de la NUPES, tout le monde ne va pas la voter parce que cette tribune-là que je viens de vous lire a aussi fait réagir dans les rangs de la NUPES où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision utilitariste de l'immigration, donc qui n'adopteront pas non plus l'amendement. Hein! Intéressant. On verra. LR va peut-être même déposer une motion de censure. Oui, mais la motion de censure. On en reparlera le jour venu. Vous connaissez ma chaîne, abonnez-vous. On en reparlera. La motion de censure LR contre un texte immigration, t'inquiète que, y a pas beaucoup de députés NUPES qui vont la voter, hein. Est-ce que tu peux montrer la liste des signataires? Oui, pardon, 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 pardon. La liste des signataires, donc du texte que je viens de vous lire, ils sont 35, ils sont députés. Julien Bayou, écolo. Mélanie Vogel, écolo. Ils sont pas tous députés, ils sont parlementaires, pardon. Il y a des sénateurs et des sénatrices aussi. Julien Bayou, écolo. Mélanie Vogel, écolo. Guillaume Gontard, écolo. Sabrina Sebaillé, écolo. Guy Benaroche, écolo. Francesca Pasquini, écolo. Maud Gatel, modem. Élodie Jacquier Laforge, modem. Erwan Balanant, modem. Mathilde Jonquière, modem. Éric Martineau, modem. Jimmy Pain, modem. Fabien Roussel, PCF. André Chassaigne, PCF. Marie-Claude Varella, PCF. Stéphane Peu, PCF. David Riemann, PCF. Gérard Lahellec, PCF. Boris Vallaud, PS. Marie-Pierre de la Gontrie, PS. Marietta Caramanli, PS. Hervé Solignac, PS. Jean-Yves Lecomte, PS. Laurence Rossignol, PS. Sacha Houlié, Renaissance. Stella Dupont, Renaissance. Bruno Studer, Renaissance. Fanta Béret, Renaissance. Cécile Rilhac, Renaissance. Benoît Borda, Renaissance. Jean-Louis Bricout, Liotte. Benjamin Saint-Huile, Liotte. Laurent Panifou, Liotte. David Topiac, Liotte. Voilà. Combien ces 35 députés sont-ils capables d'obtenir de voix sur des amendements introduisant ces mesures dans le projet de loi immigration? Est-ce que le Sénat accepterait ces amendements s'ils passaient à l'Assemblée? Non, mais l'Assemblée pourrait les réintroduire derrière, puisque de toute façon l'Assemblée a le dernier mot. C'est qui déjà Renaissance? Renaissance, c'est les macronistes. Renaissance et Modem, les macronistes, c'est une grande famille dans laquelle il y a trois partis, il y a trois groupes politiques, pardon. Il y a Renaissance, il y a le Modem et il y a Horizon. Les trois groupes qui forment ensemble la majorité présidentielle. Pas un seul d'Horizon d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi, Donne Musique, j'ai percuté en lisant la liste. C'est quoi Liotte? Liotte, c'est Liberté indépendant Outre-mer et territoire. C'est un petit groupe de députés sans étiquette en réalité. Donc c'est un groupe dans lequel il y a plein de gens différents. Il y a des gens de droite, des gens de gauche. C'est un peu le bordel. Et là, en l'occurrence, les députés de Liotte qui ont signé, c'est plutôt des gens proches de la gauche. Ouais, Jean-Louis Bricout, Martine Frogier, Benjamin Saint-Huile, Laurent Panifou, David Topiac. Bon, c'est pas les droitos de Liotte. Hein. Est-ce qu'il y avait des députés MODEM dans les signataires? Ouais, dans les signataires, il y a des députés MODEM. Il y a Maud Gatel, il y a Élodie Jacquier-Laforge, il y a Erwan Balanant, il y a Mathilde Jonquière, il y a Éric Martineau, Jimmy Pain. C'est pas de Courson, ouais, non, c'est pas de Courson. D'ailleurs, est-ce qu'on doit craindre des sénateurs extrémistes LFI et FN ce week-end? Alors craindre, j'en sais rien, ça te regarde, mais non, il y a très peu de chances que des sénateurs soient élus LFI et RN, parce que les électeurs aux élections sénatoriales, ce sont des élus locaux, que donc pour avoir des électeurs, il faut avoir remporté des élections locales, notamment des élections municipales. Or, le RN et la France Insoumise, qui sont les deux partis que tu cites, ont fait des très mauvais scores aux élections municipales, donc ils n'auront pas assez. Le RN, peut-être qu'ils auront deux sénateurs à tout péter. Ils en ont qu'un aujourd'hui, qui d'ailleurs est même plus RN, il s'est barré. Il a rejoint Reconquête. Donc voilà. Mais pas beaucoup. Le RN, peut-être quelques-uns. Mais LFI, aucun. Non, LFI, aucune chance qu'ils aient des. Qu'ils aient des sénateurs élus. Est-ce que tu as une hypothèse sur la raison pour laquelle LFI n'est pas signataire de cette tribune? Oui, LFI n'est pas signataire de cette tribune, notamment parce que sur le fond, ils sont en désaccord avec ils sont en désaccord avec une régularisation des seuls travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ce que disent les insoumis en réponse à cette tribune, c'est cette tribune, elle est bien gentille, mais elle fait dépendre l'avenir des sans-papiers du caractère de tension ou pas de secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent. Pourquoi est-ce qu'on ferait la différence entre un travailleur sans papier dans un métier en tension et un travailleur sans papier dans un métier pas en tension? Eux, ils sont pas d'accord pour faire ce tri entre les sans-papiers, et ils préfèrent une régularisation massive de l'ensemble des sans-papiers. Quand je dis ils, attention, c'est un ils qui englobe généreusement la France insoumise, mais au sein de la France insoumise, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça m'intéresse, je suis curieux. Si jamais, et je vous promets, on va suivre ça ensemble de très très près, si jamais ces amendements sont présentés dans le projet de loi, combien de députés insoumis voteront ces amendements? Est-ce que, je vais le dire clairement, est-ce que François Ruffin et Sandrine et Clémentine Autain voteront cet amendement-là? Donc on va voir. Les Jean-Luc fanboys ne la voteront pas. Attends, les députés, ils ont passé l'âge d'être des fanboys, hein. Il y a des députés plus proches de Jean-Luc Mélenchon que d'autres, mais ils ne le voteront pas seulement par fidélité à Jean-Luc Mélenchon, hein, aussi parce qu'ils sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est pas propre à Jean-Luc Mélenchon, hein. Un sans-papier handicapé mérite de retourner dans un pays en guerre où il risque de mourir. Alors attention, parce que pas confondre l'asile et l'immigration de travail, c'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut qualifier ce texte de petit pas? Oui, on peut qualifier ce texte de petit pas. Tiens, d'ailleurs, oui, c'est intéressant ce que tu dis, ça fait écho à la stratégie de François Ruffin en faveur des petits pas. En disant ça sert à rien de promettre un grand soir qu'on n'arrivera jamais à faire, les petits pas, il faut les prendre, il faut les faire, il faut aller en direction d'eux, etc. Donc typiquement, c'est le genre de phrase qui semble indiquer que François Ruffin serait à même de voter ces amendements si jamais ils étaient proposés. Est-ce qu'il est possible d'amender un amendement? Oui, ça s'appelle un sous-amendement. Voilà. Pour autant, il n'a pas signé la tribune. Effectivement, il n'a pas signé la tribune parce qu'il est encore LFI, donc il... Ah ouais. Ils ont proposé à Ruffin de signer la tribune, elle a refusé. Ouais, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Mais c'est bien pour ça que je fais la différence entre signer une tribune dans Libé et voter un amendement le jour J dans l'hémicycle. Pour moi, la différence, je la fais à cet endroit-là. Le discours de Ruffin dans Inter ce matin allait plus dans le sens d'une régularisation de tous les travailleurs pour justement des raisons de salaire, donc dans la continuité du discours LFI. C'est vrai que c'est ce que j'ai entendu. François Ruffin était l'invité de la matinale de France Inter ce matin et c'est vrai que je l'ai entendu plutôt aller dans ce sens-là. Mais je l'ai aussi entendu plaider pour les petits pas. Donc, bonne question. Non, il n'est pas à LFI. C'est à François Ruffin? Si, si, il est à LFI, François Ruffin. Donc voilà, ça aussi, ça va être à suivre de près au cours de cette rentrée politique. Hop, 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 hop. Planification. Alors, dernier sujet que je voulais aborder avec vous, l'actualité gouvernementale. Matignon, donc la première ministre Elisabeth Borne, réunissait aujourd'hui les groupes politiques pour discuter et pour leur présenter la planification écologique qui avait été promise par Emmanuel Macron, je vous le rappelle, pendant l'élection présidentielle de 2022, qui avait été annoncée au cours de son interview de juillet dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc le gouvernement a l'intention de passer la seconde sur la planification écologique et c'était aujourd'hui que Elisabeth Borne présentait le plan du gouvernement pour la planification écologique. Donc on va regarder ce qu'il en est. Planification écologique, un bilan en demi-teinte pour les chefs de parti. Chef de parti donc était invité. Cette réunion visait, selon Matignon, à permettre à l'exécutif et aux différentes forces politiques de débattre des solutions pour mettre en place une transition écologique juste et non punitive. Sous-entendu, on ne veut pas refaire les gilets jaunes. On a bien compris la leçon. Merci Grotur pour ton prime. Merci beaucoup. Après plusieurs mois d'atermoiement, Elisabeth Borne a présenté au chef de parti lundi 18 septembre sa feuille de route sur la planification écologique. À l'issue de la réunion, qu'elle a qualifiée d'oral de rattrapage après la rencontre de Saint-Denis à la fin d'août où l'écologie a été peu abordée, c'est vrai, on l'avait noté, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, a salué un constat très complet, très lucide et assez inédit. Ah. Marine Tondelier, elle est sortie de la réunion en disant: bon, eh ben au moins on est d'accord sur le constat, c'est inédit, c'est nouveau, ça semble aller dans le bon sens. Attention, on ne parle que des constats. Merci Emalia pour ton réabonnement. Mais les réunions ne servent à rien s'il n'y a pas d'action, a-t-elle ajouté, en réclamant un impôt sur les grandes fortunes climatiques et une loi de programmation des finances publiques sur l'écologie. Je vous rappelle que les lois de programmation sur les finances publiques, c'est ce qui permet de faire des programmations pluriannuelles des recettes et des dépenses dans un secteur particulier. Par exemple, en matière de défense, il y a quoi d'autre comme programmation? En matière de recherche, en matière d'école aussi, on fait des programmations, des lois pluriannuelles où on programme à l'avance, etc. Donc Marine Tondelier, la chef des écolos, appelle à une loi de programmation pour accompagner cette planification. Une guerre contre le climat, ça suppose... Non. Une guerre contre le climat, ça suppose une économie de guerre. On en est très très loin, a abondé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, était lui arrivé sans illusion, désirant surtout de faire baisser la facture d'électricité et de gaz. Sujet de crispation, la question de l'articulation entre écologie et pouvoir d'achat s'est invitée dans la réunion au moment où les prix de l'énergie et du carburant augmentent fortement. Dimanche, les oppositions ont critiqué l'annonce de Madame Borne d'autoriser la vente de carburant à perte pour baisser davantage les prix. Intéressant. Faut-il faire baisser le prix du carburant? Vous choisissez quoi? La fin du monde ou la fin du mois? Non! Pardon, pardon, excusez-moi, appuyez sur le mauvais bouton. Pour la droite, Éric Ciotti a tiré un bilan en demi-teinte de cette planification, sans perspective très claire sur les moyens d'y parvenir et de la financer. Il réclame une conférence sur les prix de l'énergie et une baisse des taxes sur le gaz et l'électricité plutôt qu'une vente à perte. Un placebo sur une jambe de bois à ses yeux. Les petites stations-service ne pourront pas se remettre se permettre une vente à perte, a estimé Madame Tondelier, qui préférerait taxer les superprofits de Total Energy ou donner des chèques carburant à ceux qui en ont le plus besoin. Je rappelle que les petites stations-service indépendantes ne sont pas liées à des grands groupes comme par exemple Leclerc, Total, etc. et donc ne peuvent pas se permettre de faire des ventes à perte parce que sinon, bah, vente à perte par définition, c'est t'es en négatif sur ton... Bah, tu gagnes pas d'argent, quoi. Genre même tu dépenses de l'argent. Genre, chaque client qui vient mettre sa pompe à carburant dans son réservoir, en fait, ça coûte de l'argent à la station-service au lieu de lui en rapporter. Au nom du Rassemblement National, la députée européenne Mathilde Androuet a réclamé une vraie rupture avec le libre-échange qui encourage la pollution et a déploré une absence totale de soucis du peuple pour qui l'environnement est devenu une contrainte. Mais elle est devenue une contrainte à cause des fortes chaleurs et des inondations ou à cause du prix du carburant seulement ? Seul responsable de la majorité à s'exprimer, le président du Modem, François Bayrou, a jugé intéressante la réunion, même s'il y a bien sûr des gens qui trouveront qu'on ne va pas assez loin. Fixé de 10h30 à midi, le rendez-vous organisé à huis clos s'est tenu sans la France Insoumise qui a décidé de boycotter le rendez-vous, comme l'a fait savoir en amont son coordinateur Manuel Bompard. Nous ne souhaitons pas participer à une nouvelle opération de communication sans effet, 3 semaines après les rencontres de Saint-Denis, avec le chef de l'État, a-t-il fait valoir dans un communiqué diffusé lundi matin, critiquant ses initiatives de contournement de la démocratie parlementaire. Alors que les défis pour notre planète sont immenses, cette décision est incohérente et irresponsable, a réagi Elisabeth Borne lundi dans un tweet publié à la mi-journée après la tenue des échanges. Tiens d'ailleurs, on en avait parlé au moment de la rencontre de Saint-Denis, quelle est la bonne manière de s'opposer au gouvernement ? Est-ce qu'il faut accepter d'aller aux réunions pour discuter, faire entendre les propositions de son parti en matière de planification écologique et tout, ou est-ce qu'il vaut mieux boycotter la réunion et balancer un communiqué de presse en disant « cette réunion, de toute façon, c'est de la merde, j'irai pas ». Typiquement, la France Insoumise a eu 2 méthodes en 20 jours. La première, c'était d'aller à la réunion, quitte à la critiquer, à Saint-Denis. Et la deuxième, c'était de faire la politique de la chaise vide. Là, c'était le cas pour cette réunion à Matignon. Intéressant. Ça dépend des sujets à Aigues. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bah, pour le coup, la réunion de Saint-Denis, il n'y avait pas de sujet. Donc les Insoumis y sont allés. Là, il y avait un sujet, c'était la planification écologique. Les Insoumis y sont pas allés. Je sais pas. Mais je comprends l'hésitation pour les Insoumis, hein. C'est effectivement une question de tactique qui est intéressante. Donc je comprends l'hésitation. Je sais pas exactement comment l'électorat insoumis préfère. Merci Ojawain House. Hop. Selon Matignon, cette réunion visait à permettre à l'exécutif et aux différentes forces politiques de débattre des solutions pour mettre en place une transition écologique juste et non punitive. En juillet, le gouvernement avait reporté la présentation de son plan en raison des émeutes urbaines ayant suivi la mort de Naël, puis du remaniement qui a eu lieu dans la foulée. Il promet aujourd'hui un plan très concret et très opérationnel afin d'être au rendez-vous européen de la baisse de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et de se projeter vers la neutralité carbone en 2050, bien que le flou reste encore. Je rappelle effectivement que l'Union européenne s'est donné un objectif plus ambitieux que les accords de Paris, 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les accords de Paris, de mémoire, c'était 40%. Quoi qu'il ressorte de ces échanges, l'annonce des principales mesures pour la planification écologique est réservée à une prise de parole d'Emmanuel Macron. Ah ! Selon les informations du Monde, c'est lundi 25 septembre que le président de la République doit dévoiler les grands axes de la planification écologique lors d'un discours tenu à l'issue d'une journée de travail où il doit convier les forces politiques, les syndicats et les associations. Plusieurs déplacements du chef de l'État consacrés à ce sujet auront ensuite lieu avant la fin de l'année. Hop ! Alors on va directement aller dans l'agenda. Tac ! Lundi 25 septembre, stream, annonce, Macron, planification écologique. Zou. Je sais pas encore à quelle heure, je vous tiendrai informé, j'en sais rien, on verra bien. On continue. Donc, c'est bien Macron qui... Donc là, la réunion, c'était pour préparer pour discuter. Les annonces, ce sera Macron lundi prochain. Ok. En direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, comme le précise pas le journal Le Monde. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le gouvernement pourrait, entre autres mesures, financer une hausse du bonus écologique pour l'achat de véhicules électriques associé à un malus étendu lors de l'acquisition de véhicules les plus polluants. En stock, neuf et ancien, la part des voitures électriques dans le parc français doit passer de 1% aujourd'hui à 15% en 2030, estime Matignon. Il y a 1% de véhicules électriques dans le parc aujourd'hui. Et en 2030, donc dans 7 ans, on doit être passé à 15%. Ça va monter d'un coup, mais ok, d'accord. Donc, bonus écologique. Ok, j'entends. Sur France Inter, le ministre chargé de l'industrie, Roland Lescure, a annoncé que 50 contrats allaient être signés dans lesquels le gouvernement s'engage à appuyer les industriels dans leur transition et eux s'engagent à la faire. Bon, d'accord. Pour lui, la planification lance la mobilisation générale. Il n'y a pas un acteur qui peut faire cela tout seul. Il faut que tout le monde fasse sa part du boulot. Il faut renforcer les obligations, doubler les amendes et exclure des marchés publics les entreprises qui ne le feront pas, a affirmé M. Lescure concernant la mesure des bilans carbone des industriels. Okay. L'exécutif promet aussi des réponses sur le financement des RER métropolitains dans une dizaine de villes de France, objet d'une proposition de loi en cours d'examen au Parlement. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé, c'était en juillet dernier, les RER métropolitains dans un plus grand nombre de métropoles en France, développer les réseaux d'interconnexion de mobilité, de transport en commun, notamment via des RER, pour éviter le recours à la bagnole qui te force à prendre ta voiture pour aller en ville quand tu habites dans une zone pavillonnaire. Lors de la présentation du budget de l'État pour l'année prochaine, prévue le 27 septembre en Conseil des ministres, l'exécutif devra également expliquer comment il entend répartir les 7 milliards d'euros supplémentaires promis par la Première ministre en juillet pour accélérer la transmission. Ça aussi, effectivement, c'était une annonce d'Elisabeth Borne. On verra dans le budget. Le budget, je vous rappelle que c'est le projet de loi de finances qui est examiné chaque année à l'Assemblée à l'automne. Le budget qui va être présenté dans une semaine, deux semaines. Le 27 septembre, dans une semaine, Elisabeth Borne nous précisera les 7 milliards d'euros supplémentaires. Je suppose que c'est de l'invest, du coup. Où est-ce qu'elle les mettra, dans quelles priorités, etc. Des mesures sont également attendues dans le secteur du logement pour des rénovations énergétiques plus performantes, a laissé entendre le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, dimanche. Donc c'est quoi, un renouvellement de MaPrimeRénov? Forcer les syndics de copropriété à faire des rénovations? On verra. Par ailleurs, d'ici 2030, le gouvernement souhaite parvenir à supprimer 75% des chaudières au fioul et baisser d'environ 20% le nombre de chaudières au gaz, hors pompe à chaleur hybride. Selon un document transmis à la presse, industrie et agriculture sont également au menu. Bref, va y avoir du lourd dans ces annonces qui sont anticipées. On verra. On verra, mais ouais, en gros, d'ici 2030, le but du jeu, c'est que les gens qui habitent dans des zones pavillonnaires, donc en gros, les gilets jaunes, roulent avec une voiture électrique, ne se chauffent plus au fioul ou au gaz naturel, mais avec une pompe à chaleur, et la possibilité de prendre un RER métropolitain pour se rendre en ville plutôt que de prendre la bagnole. Financer comment ? Et bien justement, c'est la très bonne question, financer comment? Ça aussi, ça doit faire partie des sujets. Je pense qu'il y a une partie qui est dans France 2030. Le plan de relance européen a quand même 30% du budget de relance qui est prévu justement pour la transition écologique. L'État français a rajouté à ça, dans son plan de relance, à l'époque c'était Jean Castex, une grosse partie sur la transition écologique. Donc il y a déjà eu des bonus qui ont été donnés et tout. Donc il y a déjà de l'invest qui est prévu, en partie financé par l'Europe, par l'Union européenne dans son plan de relance. Tu en demandes beaucoup, ça va être encourager les propriétaires à isoler ou bien faire inciter à changer de chauffage. Je vous rappelle que les propriétaires de passoires thermiques n'ont plus le droit de les louer. Ça, c'est dans le genre, vous voyez, on parle de contraintes. Très intéressant d'ailleurs ce sujet, on parle de contraintes, de contraindre les propriétaires de logements à rénover leur logement. Une manière de les contraindre, c'est de leur dire « tant que t'as pas rénové ton logement, t'as pas le droit de le mettre à location ». Ça paraît simple dit comme ça, le problème c'est qu'il y a tellement de passoires énergétiques qu'en fait ça crée des tensions sur le marché locatif, ces histoires. Les étudiants n'arrivent plus à se loger, y compris parce que des propriétaires n'ont plus le droit de louer aux étudiants des chambres de bonne qui sont sous les toits et qui n'ont pas été rénovées. Donc charge aux propriétaires de rénover son logement, mais du coup en attendant les étudiants n'arrivent plus à se loger. Donc, il y a une tension sur le marché du logement liée en partie à ce sujet. Attention, pas jouer au plus con. On rappelle que les objectifs de rénovation sont très très loin d'être atteints. Je suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise chose, hein, la loi sur qui force les propriétaires, machin, interdiction de, à la relocation des passoires thermiques et tout. Mais c'est typiquement ce genre de sujet de tension. Vous voyez que c'est quand on rentre dans la technique que les slogans, etc., c'est chouette. Mais qu'en fait, c'est quand on rentre dans la technique qu'on se rend compte que ça pose des difficultés concrètes. Faudrait qu'on parle un jour de zéro artificialisation nette des sols. Les problèmes que ça pose au niveau local par des maires qui aimeraient bien construire des logements sociaux pour faire baisser le prix des loyers, pour loger des personnes fragiles, etc., des précaires et tout. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus le droit de construire, c'est le bordel, le zéro artificialisation nette et tout. Donc typiquement, vous voyez, c'est dans ces moments où on applique, les mesures qu'on a décidé de prendre pour la transition écologique, on se rend compte que ça bloque sur des trucs où ça a des effets de bord, quoi. La loi SRU a-t-elle des composantes écologiques d'ailleurs? Bah, la loi SRU, c'est la loi qui oblige les constructions de logements sociaux. Par définition, une construction neuve, c'est une construction qui respecte le cadre de la construction neuve, donc qui respecte les critères écologiques. Donc, non, je saurais pas te dire. Non, je vois pas pourquoi la SRU aurait spécifiquement un acte. Mais peut-être que c'est le cas, peut-être que oui, quand les bailleurs sociaux font du diffus, ils ont peut-être l'obligation, sans doute, ouais, de rénover les apparts qu'ils mettent ensuite à la location en loyer modéré. Je sais pas. Il y a des élus locaux dans le chat qui sauraient répondre à la question. Droit de préemption par l'État de toutes les passoires thermiques et on résout tous les soucis. Alors, droit de préemption, je rappelle que l'État doit les payer. Je suis pas sûr que l'État ait envie d'acheter toutes les passoires thermiques du pays. Puis par ailleurs, il n'y a pas que l'État comme acteur du logement. Tu as aussi les bailleurs sociaux. Surtout, à combien l'État va racheter une passoire? Bah, si c'est au prix du mètre carré. Mais surtout que le droit de préemption, c'est sur la mise en vente. Donc bon. Et puis par ailleurs, ça existe déjà le droit de préemption, hein, de logement. Droit de réquisition. Alors, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui vivent dans ces logements. Je suis pas sûr que t'aies envie d'envoyer la police tambouriner à la porte des étudiants les plus précaires en disant sortez d'ici, réquisition. Bah oui, mais je dors où? Peu importe, c'est une passoire thermique ici. Ah, on les réquisitionne aussi. Non mais bon. Le problème, c'est le manque de logement et la seule réponse viable, c'est construire. C'est construire, requalifier, rénover. C'est pas que construire, mais je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, il faut construire plus de logements si on veut là aussi atteindre les objectifs, faire baisser la pression sur le logement, etc. On a besoin de main-d'œuvre dans l'armée. Dilemme, les étudiants pauvres ou les passoires énergétiques? Vous préférez quoi? Lutter contre le réchauffement climatique ou lutter contre la précarité étudiante? Il est nul ce dilemme, hein. C'est normal, c'est un faux dilemme. Après, il faut taxer les gens qui ont trop de mètres carrés par personne, mais ça, il n'y a pas grand monde qui est prêt au débat. Bah, c'est surtout que ça existe déjà, hein. Ça s'appelle la taxe foncière. Bon, voilà. Les étudiants passoires. Les passoires changeront rien au réchauffement climatique. Et bah, t'iras dire ça au GIEC, ils seront ravis de l'apprendre et ils disent l'inverse. C'est littéralement la taxe foncière, oui, complètement. Avoir des politiques nationales long terme, arrêter de tout centraliser au même endroit. Ouais, c'est pas antinomique, pour le coup. Puis au demeurant, je suis d'accord avec toi, hein, moi je suis pour la décentralisation, y compris des politiques de logement. Hein. Alors ça... Euh... Ça me fait penser que mes pattes cuisent cette histoire de passoire. Combien de logements sont inhabités en France, maisons secondaires? Alors, il y a aussi ce sujet-là qui est un sujet intéressant. Le truc, c'est que les maisons secondaires sont rarement dans des secteurs en tension de logement. C'est ça, la difficulté aussi du sujet du logement, c'est qu'un logement n'est pas égal à un autre logement. Sinon, ça se saurait. Un logement perdu au fin fond de la Pampa, en fait, personne n'a envie d'habiter dedans juste parce qu'il n'y a pas de travail autour. Après, il y a des sujets, et ça c'est vrai que c'est intéressant, il y a de plus en plus ce que je viens de dire est dans certains secteurs de moins en moins vrai. Par exemple sur la côte atlantique. On l'a vu par exemple au moment du Covid avec la question de la Bretagne, avec la Loire-Atlantique, le Pays Basque aussi. Il y a des territoires comme ça où de plus en plus la question des logements secondaires se pose. Merci Chauve-Serviette qui offre un sub. Et puis il y a aussi la question, tiens, puisqu'on parle des lieux en tension, il y a la question de la location saisonnière, qui est un mot joliment technique pour désigner Airbnb. Tous les logements Airbnb à Paris qui se vendent, qui se louent une fortune pour un week-end pour des couples de touristes américains ou chinois en visite à Paris, bah, c'est des logements en moins pour les étudiants dans les facs parisiennes et en Île-de-France. Quelque chose me dit qu'on s'en tamponne des secondaires situés dans la diagonale du vide. Oui, mais justement, faisons la différence entre le secondaire dans la diagonale du vide, où je suis d'accord avec toi, c'est pas là qu'il y a des tensions, avec le secondaire situé dans des endroits où c'est un problème. Où les gens sont en recherche de logement, quoi. Après, évidemment, ça dépend de combien de temps. Car par exemple, quand je pars en déplacement, je mets mon appart en Airbnb pour absorber les frais. Oui, mais justement, c'est pas la même chose. Un locataire qui met son appart en Airbnb pour se faire un peu de fric pendant qu'il n'est pas là, et un propriétaire de logement qui se dit, tant qu'à faire, plutôt que d'avoir un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent et qui va galérer à payer son loyer tous les mois, eh ben, je vais mettre mon logement que sur Airbnb et je vais attirer que du touriste. Alors certes, ce sont des locations très courtes, mais au moins ça m'apportera un max de fric. Donc évidemment, là aussi je suis d'accord avec toi, il faut faire la différence. Un locataire ne peut pas sous-louer. C'est vrai, c'est illégal. Voilà. C'est illégal les locataires, ne faites pas ça. Ne mettez pas votre chambre étudiante sur Airbnb un week-end pour vous faire un petit peu de fric et vous payer des vacances ou vous acheter à bouffer. Sauf avec l'accord du propriétaire. Sauf avec l'accord du propriétaire. Bref, c'est intéressant, vous avez vu? On parle de planification écologique et on arrive sur des thématiques de logement. Et encore, on n'a pas parlé de transport. Et on n'a pas parlé d'agriculture non plus. Et on n'a pas parlé d'énergie. Et ça va en faire des streams intéressants sur cette chaîne. Abonnez-vous, bordel. Merci, les copains, d'avoir été là. Non, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous remercie, parce que c'est pas la fin du stream. Il est quelle heure? Il est 19h? Merci Fast Fabio pour ton abonnement. Merci pour ton soutien. Ça fait zizir. Est-ce qu'on a parlé d'LFI qui a boycotté la réunion sur la planification écologique? Oui. Merci Wouche. Oui, mais on s'en fiche du logement car il y a du nucléaire qui va nous sauver. Mais non, pas du nucléaire, de l'hydrolien. Oh, putain, vous suivez pas les tendances. C'est une blague. C'est une blague. C'est quand la rentrée des QAG? C'est mardi 26. Mais je suis pas sûr de pouvoir vous streamer cette rentrée des QAG parce que le même jour, un tout petit peu après, j'ai une émission à la mairie de Paris sur la démocratie qui s'appelle DemoStream que j'ai hâte de vous présenter. Donc le mardi 26 à 18h, DemoStream sur ma chaîne, en direct, en partenariat avec la mairie de Paris, en direct de l'Académie du Climat. On va parler de démocratie. Ce mercredi, je vous rappelle qu'à 16h30 sur cette chaîne, une émission spéciale sur la maladie d'Alzheimer en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. On va discuter recherche médicale, on va discuter Alzheimer, on va discuter vivre avec la maladie, on va discuter travail des chercheurs, progrès des chercheurs, financement de la recherche, conditions de vie et de travail des chercheurs, etc. Donc c'est ce mercredi à 16h30. Jeudi, Backseat à 18h. 30. Et puis voilà. Mince, j'ai oublié Alzheimer. Bon, la blague est marrante. La blague est marrante. Mais mercredi, sur mon plateau, j'aurai un patient atteint de la maladie d'Alzheimer qui sera avec nous. Voilà. Vous... Tranquille sur les blagues. Tranquille sur les blagues. Moins drôle d'un coup. Faudra voir l'ambiance sur le moment. Mais voilà. On rigolera que si lui il fait la blague. Voilà, c'est ça, exactement. C'est effectivement la balle est dans son camp. Tac, 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 tac. Bon, hey, ça nous fait une bonne semaine, ça. Attends, je check. Je check, je check, je check. Hop, hop. Voilà, donc récap de ce que je viens de vous dire. Demain, à 16h, je fais une FAQ politique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est... vous me posez toutes les questions que vous voulez sur la politique. Et si je peux vous aider à mieux comprendre la politique, au sens très large du terme, eh ben, j'y répondrai avec plaisir. Donc, c'est à 16h demain. Mercredi, 16h30, Checkpoint, spéciale maladie d'Alzheimer avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Jeudi, 18h30, Backseat, votre émission préférée. Merci pour votre soutien. Rejoignez le club Backseat et financez l'émission. Point d'exclamation qui se kisse dans le chat. Vendredi, on verra, ça dépendra de mon état. Et puis voilà quoi. C'est bon, c'est noté dans vos agendas, les streams de cette semaine ? Pourquoi la maladie sur Alzheimer n'est pas en before the backseat? Parce que on a discuté avec la Fondation pour la Recherche Médicale et on s'est dit que c'était mieux de faire une émission spéciale sur le sujet, parce qu'un before the backseat c'est plus court, et donc autant créer une émission spéciale sur le sujet, interviewer différentes personnes, prendre le temps, etc., plutôt qu'un before the backseat. Donc ça dépend des partenariats, etc. D'ailleurs, c'est marrant, j'en ai parlé avec mon avocate, vous savez qu'il y a la loi qui encadre les pratiques commerciales des influenceurs qui est passée, qui est entrée en vigueur là en septembre. Du coup, désormais, j'ai l'obligation, quand je fais un partenariat, de l'indiquer sur l'image du stream et d'écrire partenariat commercial, collaboration commerciale ou publicité. Donc la loi, j'ai relu la loi ce matin, la loi me donne le choix entre écrire publicité ou écrire collaboration commerciale. J'ai le choix entre l'un et l'autre. Le problème que j'ai, c'est que collaboration commerciale, moi je trouve que ça a du sens quand on fait du placement de produits commercial, genre NordVPN, genre un parfum, je sais rien, des trucs qui se vendent. Sauf que moi sur ma chaîne, vous me connaissez, on a plutôt l'habitude de faire des partenariats avec des collectivités, avec des institutions, avec des assos. Je dirais, il n'y a pas grand chose à vendre, tu vois. Donc du coup ça fait con, mais collaboration commerciale avec la Fondation pour la Recherche Médicale, je vois pas très bien ce que ça veut dire, tu vois, on a rien à vous vendre, hein. Donc c'est bizarre. Publicité, ça se tient. Publicité et dire partenariat rémunéré. Partenariat rémunéré, je vais regarder dans la loi, il n'y a pas écrit partenariat rémunéré, je te jure, hein. La loi, elle précise collaboration commerciale ou publicité. C'est les deux autres alternatives que j'ai. J'ai pas... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien mettre partenariat rémunéré, ça a du sens. Ou voilà. Elle est con, cette loi. Bah non, elle est bien, c'est une bonne loi. Dans le fond, c'est une bonne loi, moi je suis pour, hein. Mais elle a été écrite avec des gros sabots, et du coup, ça paraît débile, tu vois, de dire bah je vais faire un partenariat commercial avec la mairie de Paris. Ça veut dire quoi? J'ai dit, elle a rien à vous vendre, la mairie de Paris. J'ai fait faire un partenariat commercial avec la FRM, je vais faire un partenariat. Je sais pas. Tu peux pas rajouter produit à but non lucratif. En vrai, j'en sais rien. Il y a une partie de moi qui est en mode bah vas-y, on n'a qu'à essayer. Puis il y a une partie de moi qui est en mode j'ai pas envie de me foutre dans la merde, les gars. Je suis désolé. J'ai pas trop envie de tenter de trouver les limites de la loi à mon corps défendant. Je sais pas, faut que je. Rappelez-vous, on avait invité les députés en plus qui proposaient cette loi sur le plateau de Baxit. Faut que je leur envoie un texto. Faut que je leur donne. Hey, ta loi là. Ta loi que t'as écrite avec les pieds. Comment je l'applique moi? T'es marrant. En vrai, ce serait marrant qu'ils me répondent et du coup, je pourrais montrer ça au juge en disant, mais regardez, c'est le député lui-même, le rapporteur général de la loi qui m'a dit. Publicité, c'est simple et compréhensible. Bah... Moi, j'ai l'impression que publicité, dans le langage courant, ça renvoie à une publicité commerciale mercantile. Ce qui n'est pas un gros mot, hein. Je comprends tout à fait la publicité, acheter ma nouvelle bagnole, regardez la nouvelle Renault Zoé, elle est super, achetez-la. Ça a du sens, ça s'appelle la publicité, je connais, etc. Mais est-ce qu'on peut parler de publicité au sujet du Parlement européen, au sujet de la ville de Paris, au sujet d'une fondation, au sujet d'une assoce, au sujet d'un syndicat de... Ouais. Ok, donc il y en a plein dans le chat pour qui publicité ça va. Bon. Propagande. Propagande publicitaire. Moi, ça me choque pas. D'accord. C'est quoi la définition du mot publicité? La définition du mot publicité, c'est quelque chose qui est rendu public. Point barre. Par voie de presse, par voie radiophonique, par voie télévisuelle, par voie numérique. Publicité, ça veut dire publier un livre, c'est publier. Public, caractère public. Donc une fois que tu as dit ça, en fait, t'as rien dit. Tu définis un truc beaucoup trop général. Par habitude, la notion de. Merci Naotech pour le raid. Par habitude, la publicité dans les médias, et notamment dans les médias audiovisuels, renvoie à des pages de publicité qui sont, depuis 70 ans, bah, on a l'habitude de voir des publicités qui sont des publicités à caractère commercial, mercantile. Lucratif, appelez ça comme vous voulez. Bref, il y a des trucs à vous vendre, il faut que vous achetiez. À un moment, il y a un acte d'achat, machin. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire faire de la pub pour la lutte contre le réchauffement climatique. Non, c'est une cause, enfin, je sais pas. Moi, j'ai du mal à mettre sur un pied d'égalité une cause, une institution, une marque, un produit, et à utiliser le même mot pour désigner tout ça. Mais peut-être que je me trompe et qu'en fait, je me fais des nœuds au cerveau pour rien. Message promotionnel, ouais, c'est ça, campagne de promotion, message promotionnel, campagne d'affichage. Quand on rentre dans le détail, il y a plein de manières de faire de la com. Il y a plein de manières de faire de la communication. Et 70 ans, c'était la réclame. C'est vrai, ça faire de la réclame. Ah, t'as raison. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Finalement, partenariat rémunéré, c'était pas mal. Bah, moi, je trouve que c'était pas mal, partenariat rémunéré. Vous comprenez que le partenaire a donné de l'argent pour financer l'émission etc. Donc c'était un partenariat rémunéré, d'accord? Cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN, machin. Oui, ça, d'accord? Partenariat rémunéré, enfin on comprend, tout le monde a compris. Partenariat institutionnel, sinon. Si c'est avec une institution, parce que si c'est avec une asso, ça marche plus. Si c'est avec une fondation, ça marche plus. Si c'est avec. Je sais pas. Ça va être sympa le prochain The Event avec un gros publicité chez les streamers. Non mais tu vois, ouais non mais voilà, c'est un bon exemple, parce qu'en plus la loi elle est vraiment écrite. Ou alors c'est Baxit qui finance l'invité, c'est aussi un partenariat rémunéré, mais on perd le sens de attention, discours possiblement biaisé. Oui. Attention, disclaimer, la personne politique qui va s'exprimer dans ce micro risque de dire des opinions politiques qui lui appartiennent. Il est possible que cette personne tente de vous convaincre que ses opinions sont bonnes. Ne paniquez pas. Asseyez-vous, inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est un invité politique dans une émission politique. Il est même possible que ses opinions ne soient pas les vôtres. Ils sont vachement politisés, les politiques, quand même. Pardon, mais moi je trouve que les politiques dans les interviews, ils sont pas très neutres. Franchement, quand même. Contre la propagande politique, chacun peut agir, ne restez pas seul. Venez rejoindre le club Baxit, vous verrez. On résiste mieux à la propagande politique lorsqu'on rejoint le club Baxit. Regardez, vous êtes bientôt à la fin du palier. Point d'exclamation qui se kiss dans le chat pour vous aussi participer au financement. Tu peux pas dire ça, Jean, les gens avec qui je suis d'accord, ils sont neutres dans Baxit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut faire la part des choses. Entre les politiques avec lesquelles je suis d'accord, qui ont une parole de vérité, de justesse et de profondeur, et les politiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord, qui, eux, ont un vil dispositif de communication biaisé et une tentative honteuse de manipuler l'audience. C'est pas la même chose. Faut. Non mais voilà, les gens, tu leur demandes leur opinion, ils la donnent. Ouais, c'est bon, d'un moment. Veux dire qu'on se fait biaiser? Oh, dans tous les sens. Le pire, c'est qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on revient chaque jeudi regarder Backseat. La pub pour Backseat, c'est légal aussi. C'est vrai ça. Si je fais de la pub pour Baxit, est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois annoncer que c'est un partenariat commercial? C'est pas un partenariat, Baxit me donne pas d'argent pour que je parle de Baxit. Putain merde, ça devient débile. Ah oui, je vous préviens, pardon, excusez-moi. Quand je vous dis de vous abonner à ma chaîne Twitch, je précise, c'est un partenariat commercial que j'ai avec Jean Massier, le streamer, qui me finance pour que je vous incite à vous abonner à sa chaîne. C'est un peu compliqué à comprendre, je vous l'accorde, mais faites-moi confiance, c'est un placement produit. Voilà. Mais il est sympa, est-ce que tu as un salaire avec Baxit? Si oui, ça devient peut-être une pub. Mais non, c'est débile, je suis producteur. Donc en fait, ça marche pas comme ça. C'est une émission que je produis. C'est complètement débile. Je suis coproducteur, mais. Ouais, typiquement, par exemple, l'émission avec la fête de l'Huma, c'était pas un partenariat commercial. C'était une coproduction entre le journal L'Humanité et Baxit. Diffusée sur Twitch. Compliqué, hein. Donc du coup, j'ai pas l'obligation d'écrire partenariat commercial. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu des produits? C'est pas faux. Chaque demande d'abonnement est un placement de produit déguisé pour Amazon.
Oh!
Terrible. Ouais. Eh, on vit vraiment dans une collaboration commerciale, hein. Et je propose que ce soit le mot de la fin de ce stream qui a duré un peu trop longtemps. Là, on est parti loin là. C'était mieux hein, quand on parlait des passoires thermiques, logement, tout ça, politique de logement, justice sociale, dans la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique et tout. On va faire un raidage. Est-ce qu'on va faire un raidage? C'est même pas sûr. J'en sais rien. Le raiding. Est-ce que je vous envoie? Tiens, on va faire un raid chez Toxic Avenger. Toxic Avenger, si vous ne connaissez pas, c'est un musicien, un DJ de musique électro qui a fait la musique de l'émission Backseat. C'est lui qui a fait la musique du générique. C'est une musique spéciale Backseat qui nous a composé. Il est également streamer, Toxic Avenger. Donc, je vous envoie en raid chez Toxic Avenger qui est en train de streamer. Je sais pas ce que je crois qu'il fait de la musique d'ailleurs. Donc voilà, un musicien très talentueux que j'écoute depuis que j'ai 14 ans à l'époque sur Dailymotion, tard l'époque. Amusez-vous bien chez Toxic, merci d'avoir été avec moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour une FAQ politique. Ciao, bye bye, salut, bonne soirée.